Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. C'est le 52e épisode, l'épisode numéro 51, ce qui est très estival en fait comme numéro. Nous sommes donc le 6 juillet 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens incroyables et en physique tels que Julien Durillon.
Je vous fais même le bruit de la chaise.
Bonjour.
Puis en plus, vous avez droit à des vrais effets spéciaux. Je pense qu'on a trouvé dans toutes les salles de réunion du palace celle qui avait la tapisserie la plus pénible en termes de Dieu.
J'espère que vous ne faites qu'écouter le podcast.
Moi, je ne sais pas comment on va s'en sortir le codec, tu vois. Il n'est pas impossible que le codec n'y arrive pas. Et aujourd'hui, on est juste tous les deux avec Julien et on reçoit un invité de marque, un invité grand, un invité beau, un invité grandiose, un invité où j'ai perdu ma putain de fenêtre, un invité incroyable. On reçoit le grand, le beau Steve Morin. Bonjour Steve.
Bien le bonjour à tous.
Steve, les gens ne te connaissent pas toujours. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais au quotidien?
Au quotidien, je vais m'appeler développeur. Et je fais plein de trucs au quotidien, surtout pompier. Mais je fais du back-end, du mobile, du build, de l'ops, de l'informatique en général. J'ai la chance d'être passionné, comme certaines personnes dans ce podcast.
En ce moment, tu travailles chez Zenly, c'est
Zenly, ça ? Ouais, depuis 6 ans.
Depuis quasiment la fondation, en fait.
Pas de la boîte, mais depuis quelques mois après le produit, parce que la boîte existait avant le produit. Et depuis, la genèse avec un ami que tu connais bien, qui est Corentin.
Très bien.
Voilà.
Et Corentin viendra aussi.
Croise les doigts, je vais faire du lobbying pour toi.
Zenly, c'est le truc qui te dit où tes copains sont, c'est ça ?
Oui, alors, Zenly, c'est tout simplement pour savoir où sont les gens qui comptent pour toi, enfin tes proches. Mmh. Et donc, obsoléter le fameux texto « t'es où ?». Mmh. Parce qu'il y a un truc qu'on ne remarque pas, mais on a tous un pote qui est en retard. Bon, il se trouve que c'est moi dans mon groupe d'amis. Et en fait, ce qui est chiant, ce n'est pas d'être en retard d'une demi-heure. Ce qui est chiant, c'est d'être en retard de 30 fois une minute. Et ça, c'est insupportable. Mmh. Tu sais, quand tu es aux terrasses de café et qu'il dit « j'arrive », et tu sais, chaque personne que tu croises au coin de la rue, tu sais, Non, voilà. Eh ben Zenly, ça obsolétise ça et du coup, tu sais où sont tes amis. Mais c'est surtout une carte perso. C'est ta carte à toi avec tout ce qui t'intéresse, en l'occurrence tes amis, mais pas que.
C'est aussi, moi, je m'en sers. Alors, je m'en sers à la place de localiser mes amis d'Apple qui est un peu poussif. Mais moi, je m'en sers aussi pour voir. Enfin, moi, je vis dans plusieurs villes. C'est-à-dire que je suis pas toujours à Nantes, genre loin de là. Et ça me permet de savoir quels sont mes potes en ville. En
qui fait. Est dans le coin, ouais.
Ouais. Parce que je suis pas le seul à vivre dans plusieurs villes.
Et
Il m'est arrivé de boire littéralement des cafés avec Steve parce que je me rendais compte qu'il était à un bloc et que je lui disais, hey, t'as le temps d'un café. Et voilà. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Et Zenly, c'est une boîte qui fait partie d'un groupe maintenant.
On a été racheté par Snap il y a 4 ans. Et alors. Avant que tout le monde, parce que tout le monde me pose la question évidemment, on reste indépendant, on est toujours le produit continu et non, on n'a pas été intégré à Snap, enfin à Snapchat, pardon. Et ça se passe merveilleusement bien avec Snap. Ils sont, contrairement à ce que j'ai entendu pas plus tard que hier ou avant-hier, les gens avaient cru qu'on nous avait été rachetés pour nous tuer. Non, pas du tout. Wow. Non, au contraire.
En 4 ans, c'est que les mecs seraient pas hyper efficaces.
Voilà, exactement. Et puis, j'ai envie de dire pourquoi ça fait un peu particulier.
Je vais le tuer.
C'est ça. Tu sais, avec la cuillère. Là. Et ça se passe très bien. Ils nous aident beaucoup. Enfin, ils sont très en mode, je vais pas dire grand frère, mais vous savez, genre, comment on peut. Voilà, exactement. Comment on peut vous faire que vous travaillez mieux et plus vite et vous emmerdez moins sur des trucs que vous n'auriez pas à vous emmerder. Et donc on est très contents. Voilà.
Et du coup, est-ce que tu as eu des free spectacles
Non, non. Figure-toi que j'ai découvert l'existence des spectacles comme tout le monde. Ou peut-être peu de temps avant, je ne sais même plus en fait. Mais non, je n'ai pas eu de free spectacles.
Donc, pour avancer un peu sur le podcast, Steve, moi je t'ai connu beaucoup, évangéliste Go et évangéliste Basel,
Ouais.
mais surtout hacker. C'est-à-dire que depuis que je connais Steve, régulièrement, il fait un truc, il s'amuse, il crée des machins. Et puisqu'on va parler un peu droit et société, l'un des trucs que tu avais fait qui m'avait fait vraiment hurler de rire à l'époque et que j'avais trouvé super cool, c'était tu avais pris le code civil français et tu l'avais foutu dans GitHub.
Ouais.
De nous parler de ce truc-là qui était un peu, enfin, qui était pas un peu, qui était très amusant.
Ouais, ben, en gros, je suis pas le premier à se dire que la loi c'est du texte et le texte ça marche bien dans Git. Et donc un jour, j'avais, enfin, ça, voilà, ça me traînait dans la tête quoi. Et un jour, j'avais du temps, enfin j'avais fini un projet un peu en avance quoi. Et enfin en l'occurrence une release d'un autre projet que tu connais aussi. Rapport des films et je me suis dit tiens j'ai une après-midi je vais faire ça et j'ai du coup fait un scrapper à l'arrache de Légifrance quoi dans le temps et j'ai généré à coup de git moins enfin tu fous Légifrance tu fous un truc qui fait du markdown git add moins a et puis git push et en avant quoi après il y a un peu de bricolade pour les dates parce que tu veux un peu faire ça un peu propre quoi que ce soit stylé de voir le commit en 80 et des poussières enfin ce que tu veux et j'ai fait ça et le lendemain mon téléphone enfin je l'ai pushé j'ai fait un tweet et le lendemain mon téléphone a vibré parce qu'à l'époque Twitter ne te batchait pas tes notifs en fait donc t'avais vraiment un event une notif quoi
Ouais, c'est assez vieux ce projet-là, je sais pas, ça a quoi,
ouais 2013 2013
2013, ah, oui,
c'était autour de la loi du mariage pour tous et c'était très fun bah de voir que ça prend et de voir qu'en fait mes fellow developers se retrouvent intéressés par un sujet qui est la loi, quoi. Et en fait, on se rend compte que la loi, c'est au sens propre du code pour les humains, mais du code, quoi. Et du coup, c'était très très chouette de voir bah, l'engouement, si je puis dire, civique du truc. C'est-à-dire, on n'est pas dans le. C'était pas cynique, en fait. Mine de rien. Bah, ça a été très chouette, puisqu'après j'ai décliné le truc à tous les autres. Enfin, j'ai essayé un peu de le bricoler, de le professionnaliser un minimum, quoi. Et y a eu pas mal, j'ai fait pas mal de rencontres à l'époque là-dessus. Ouais. Je me suis retrouvé à l'Assemblée nationale et tout. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les gens de l'Assemblée, en particulier les gens de la commission des lois, étaient hyper intéressés.
En fait, ça pose une rupture épistémologique parce qu'en fait, aujourd'hui, la loi, c'est du happen only. Et en fait, t'ajoutes et en fait, toutes les lois sont valides. Et en fait, les modifications, en fait, la notion de projection du texte comme étant à un état stable, si on voulait, si on considère que chaque loi va agir en CQRS, si vous voulez, en événement de modification du texte, en fait, la projection n'est pas valide. C'est pas ça la validité, en fait. Ce qui est la loi, c'est le log, en fait. Et le log, en fait, il est très difficile à lire, c'est extrêmement pénible. Et en fait, c'est extrêmement pratique. En fait, la loi, elle a été écrite sur du parchemin, quoi. Et du coup, la modification,
Clairement.
c'était pas, enfin, c'était pas le plan, en fait. Enfin, voilà.
Non, mais tu as un petit peu une idée, enfin moi, ça m'a donné une idée de ce que nous, entre guillemets, nous les devs, quoi, comment on aurait pu mettre en forme nos idées, notre façon de penser il y a 200 ans, tu vois. Tu as vraiment les mêmes concepts de dette. De genre ouais mais là il y a de bugs d'exploits enfin tu vois c'est je prends des termes un peu modernes mais tu transposes exactement ça dans la loi et c'est assez étonnant enfin de conditions de etc avec la différence c'est que l'interprétation est humaine et donc elle est orientée pour être lue et interprétée par les humains donc avec tout le spectre de nuances que tu peux donner quoi. Mais c'est finalement assez, enfin, c'est bien fait, hein, encore heureux. Et c'est beaucoup moins à l'arrache qu'on ne le pense. Alors nous, ça nous paraît un peu archaïque, mais il faut bien imaginer que, enfin après, je dis ça en tant que technologiste, hein, mais notre discipline, elle a 50 ans, quoi. La loi, ça, enfin je dis 50 ans, on pourrait faire de la sémantique, mais la loi, ça. c'est des millénaires. Et la loi, au sens tel qu'on le voit, elle n'a pas besoin de machine pour l'appliquer, quoi. Elle a besoin juste de nous. Et ça, c'est un petit peu... c'est intéressant comme approche.
Ouais, mais je pense que tu vois, aujourd'hui, la technologie pourrait avoir, je pense, un impact sur la lisibilité,
oui, absolument,
du process de création légale. Aujourd'hui, la technologie n'a pas encore l'impact qu'on voudrait. Enfin, tu vois, l'impact le plus prégnant, je pense, c'est les réseaux sociaux et l'hystérie collective, ce qui n'est pas nécessairement la partie la plus pertinente. Et je pense qu'il y aurait un vrai truc à faire du premier pays qui se dirait on va mettre en forme le législatif dans un monde mouvant. Et effectivement, je pense que dans Git, on a quasiment tout ce qu'il faudrait et ça aurait du sens. Et pour imaginer des votes extrêmement précis, on pourrait imaginer quelque chose d'assez transparent et d'assez beau, en fait.
En fait, après, ce qui est assez amusant, et tu as mis le point dessus, c'est de voir, si tu veux, la déconnexion. Enfin, en tout cas, je dis c'est amusant, c'est pas objectif, quoi, c'est mon point de vue, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, de voir la déconnexion qu'il y avait entre la réalité du texte et la perception du texte. Et moi, ça m'a fait l'exemple dans Le mariage pour tous, en fait, qui est quand même un texte qui a... Enfin, il y a des gens qui, pendant 2 ans après, campaient devant le ministère de la Justice, quand même. Tu vois, c'est un truc... Il y avait des gens qui étaient chargés de convictions sur ce sujet. Et en fait, quand tu lis le texte avant, le texte après, donc pas la loi, hein, le texte avant, le texte après, tu t'aperçois qu'en fait, 95% des changements, c'est remplacer père et mère par parents, si tu veux. C'est, voilà. Donc ça, si tu peux, c'est typiquement le truc de dette technique qu'on efface. Mais du coup, évidemment, ça ouvre un monde. Mais quand tu le lis, si tu veux, tu te sens beaucoup moins... je vais pas dire radicalisé. Enfin, ouais, tu te sens un peu moins radicalisé, quoi. Tu te dis, ah, c'est tout.
Ah bon. Ça enlève les...
du coup, voilà. Non,
tu vois. C'est là que tu te rends compte que...
Et ça, fois N sujets.
Qui ont manifesté, imagine, ou qui ont campé... C'est là que tu te rends compte que les gens qui ont campé devant le ministère, ils voulaient juste qu'on n'enlève pas des restrictions qui étaient dans la loi, quoi.
Il y a plein de choses, mais je pourrais pas dire ce qui, tu vois, les motivations profondes et est-ce qu'elles sont légitimes ou pas légitimes, mais c'est amusant de voir que quand tu présentes ça, si tu veux, en l'occurrence le commit, hein, du mariage pour tous, à tous les gens. Alors après, certes, je suis dans un microcosme, évidemment, enfin, je suis dans une bulle comme nous tous, quoi. Mais le présenter aux gens, il y a vraiment beaucoup de gens ont un côté de genre de ballon de baudruche, tu vois, genre ah bah oui. Ah bah c'est tout. Mmh. Et en fait, ça faisait un peu écho, si tu veux, à ce que m'avaient dit les députés, en l'occurrence, où ils me disaient que ils ont un énorme problème d'accès à l'information et d'accès à la compétence. Parce que quand tu vas devoir répondre à une question et tu vas devoir te renseigner, si tu veux, auprès de gens qui sont plus intelligents, mais plus renseignés que toi sur la question, comment tu sélectionnes ces gens,
prenante de la société, voilà, capable d'avoir une réponse sur la question.
Et il y a un vrai sujet où il me disait, grosso modo, on a 3 acteurs à chaque fois qui se dégagent, les syndicats, les extrémistes et les insultes. Donc c'est un peu et donc si tu veux, ils ont un vrai problème de remontée d'informations, et donc avoir des gens qui parlent de sujets non pas sur le plan technique et pas forcément émotionnel, c'était un vrai c'est ce qui les intéressait beaucoup, parce que même nous, tu vois, en tant que développeurs, même si on n'a peut-être pas les connaissances ou le recul pour dire pourquoi changer un mot par un autre pour avoir un impact sociétal énorme, ce qui pourrait être le cas, hein. On a ce côté, on comprend, quoi, tu vois, on efface la dette, on essaie de propager, surtout, tu vois, de
c'est surtout que de dette. Je trouve que l'utilisabilité est pas très bonne, parce qu'en fait aujourd'hui la loi, il y a beaucoup d'articles, c'est dans tel article de tel code, on va remplacer le mot bidule par le mot machin, et en fait c'est très invisible, faut aller au code à jour, donc dans une des projections de Digifrance, voilà, et essayer de comprendre l'impact. Alors après, il y a aussi des mots qui ont des impacts insoupçonnés en légalité, donc ça c'est de la culture pour le coup légale, mais en fait il y a vraiment cette notion là, en fait, qui est cette qui est cette capacité à comprendre l'impact d'une loi. Et en fait, je pense que la loi aujourd'hui serait présentée, là on dit sous forme d'un commit, mais en fait, c'est pas réellement sous forme d'un commit, c'est sous forme d'un commit présenté d'une interface comme GitHub. Donc à présent,
oui, voilà. Bah, après,
bah, en fait, c'est vachement
moins important, quoi. Ouais, tu as plusieurs choses. Tu as l'UI et tu as les tools. Y a vraiment deux dimensions. Si tu prends l'exemple de Git, hein, il y a vraiment deux dimensions où tu dis la loi étant dans Git, tu as la version pour les barbus qui vont faire du TIG et qui vont aller chercher le moindre détail. Tu as la version pour les un peu plus les gens qui sont un peu moins renseignés, tu vois, technologiquement parlant, j'entends, qui vont aller le voir sur une UI style GitHub. GitHub, c'est une très bonne UI pour ça. Et moi, par exemple, j'ai vu des conversations sur Twitter d'étudiants en droit qui se partageaient, si tu veux, les commits de GitHub, en fait. Et il y avait vraiment un côté, on partage le changement. Pardon ?
Il tourne toujours, ton soft ?
Non, enfin, le snapshot est fait, mais il tourne pas, il n'est pas mis à jour. Mais tous les ans, je me dis, tiens, il faudra peut-être que je fasse une... Enfin, maintenant qu'il y a GitHub Action, c'est vachement plus facile, mais... que je fasse une GitHub Action qui met à jour. Mais tu as un vrai sujet, par exemple, de reproduçabilité des commits. Tu veux vraiment que les commits, un commit A, tu veux qu'il garde le même chat. Et vu que, en fait, les JFrance, enfin pas les JFrance, mais la DILA donnait à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais en grosso merdo, un snapshot et des diffs, tu es obligé de tout rejouer pour refaire à chaque fois le repo en entier. Donc, bon, ça demanderait un peu de boulot, mais c'était marrant en tout cas.
On pourrait essayer de se faire... Enfin, s'il y a des gens que ça branche, n'hésitez pas à nous catcher sur Twitter, mais on pourrait essayer d'organiser un hackathon à l'Assemblée avec la commission des lois là-dessus pour essayer de construire un outil dans le temps. Moi, je trouve que ce serait hyper pertinent. Et j'en ai profité pour te mettre un deuxième outil de CivicTech là dans la liste des liens. Mm-hmm. Et un truc, en fait, en en parlant, j'y pensais, c'est un truc qui s'appelle CatalaLang. Et en fait, Catala, c'est un langage qui permet de décrire le fonctionnement notamment de choses fiscales. En disant, le problème, c'est que dans la loi, on décrit de la fiscalité. C'est pas exécutable. Du coup, il y a une passe où il y a une interprétation qui est en général faite par du légal ou du fiscaliste, puis par des développeurs. Et en fait, ça peut déconner. Et en fait, ça serait plus simple de committer dans la loi, enfin, d'écrire dans la loi du Catala, qui serait en fait directement exécutable. Et que du coup, on lance un runner Catala quand on fait le calcul fiscal. Et ça, c'est quelque chose qui a été... moi, j'y ai été confronté très vite. À Nantes, on a... Donc, en fait, les gens ne se rendent pas toujours compte. À chaque fois qu'on parle de fiscal, les gens parlent de l'impôt sur le revenu dans leur tête. Mais en fait, il y a plein de trucs qui sont des lois fiscales et qui ont des variations. Et en fait, à Nantes, par exemple, sur la tarification sociale de l'eau, donc, je ne sais pas si vous voyez, mais l'eau, chaque collectivité peut décider d'en faire une tarification qui n'est pas nécessairement linéaire et décider que bah, les gens qui ont moins d'argent en fonction de... Et là, ça peut devenir très compliqué, mais ça peut être des revenus de la CAF, du machin, du etc. De combien ils payent d'impôts, de leur ménage. Enfin, chacun peut décider ce qu'il fait, de faire des péréquations qui fait que globalement, les ménages à faible revenu ont un prix de l'eau plus faible et que des ménages plus aisés payent l'eau plus cher, et que cette péréquation dans la commune permette ce qu'on appelle la tarification sociale de l'eau. Sauf qu'en fait, quand tu fais ce genre de truc, ça finit toujours par un bidule ultra compliqué, sa race, comme texte, et qui fait qu'en fait, après, ça finit, tu vois, chez un prestataire informatique qui se tape l'implémentation du machin, parce qu'à un moment, faut envoyer des factures de flotte, en fait, tu vois. Et là, ce qui a été décidé, c'était de libérer, donc à Nantes, on a libéré le code qui fait tourner ça. Et en fait, le truc, c'est que le code est libéré, mais sans test unitaire, et c'est que les parties qui calculent le truc, mais tu peux pas les lancer, tu vois. Et du coup, je trouve que ça perd un peu, si tu veux, de son applicabilité. Et c'est pour ça que j'en avais parlé à l'époque aux élus, bon, qui m'ont encore pris pour un illuminé, mais en leur disant, ce qui pourrait être intelligent, c'est qu'en fait, on vote du Catala, et que du coup, on fasse tourner du Catala, et que du coup, en fait, l'implémentation... ne soit pas différente entre la loi et ce qui va tourner, effectivement. Voilà. Et j'avais trouvé ça relativement pertinent, parce que je ne sais pas si tu connaissais déjà ou pas.
Non, j'avais entendu... Enfin, on en a parlé hier soir, d'ailleurs, de Catala, mais j'avais entendu parler de l'autre langage, là, celui qui avait fait par la DGFiP. Je crois que c'est M, ça s'appelle. C'est un langage pour, c'est le langage qui fait tourner les impôts en fait, pour faire simple. Et ils ont sorti un transpiler C, je crois. J'ai dit pas de bêtises. C'est ça. Verifisk Mlang. Donc ça c'est pour faire pour le coup de l'impôt sur le revenu. Mlanguage. Tiens, je vous le mets dans le.
Ah bah il faut.
Hop là, voilà.
Qui est sur le GitLab de Lendry. Hein. Ah non, il a été bougé sur.
Ouais, GitHub. Sur GitHub, ouais. Et donc je vais dire même scope, mais en tout cas même realm.
Voilà, donc ça c'était notre petite partie. Parlons des expériences de Steve et parlons CivicTech. Si c'est des dossiers qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas. Et tant qu'on était en civique, j'en profitais pour vous lâcher cette petite tribune Don't Kill French Tech qu'on a publiée initialement dans Le Monde. C'est un peu une réponse. Donc c'est avec quelques copains, on a écrit ça en disant. Donc l'État a édicté ce qu'ils appellent leur doctrine cloud. Et en fait, dans leur doctrine cloud, le grand truc était de dire, on va pas faire de software, puisqu'on est mauvais en software en France. Alors déjà, j'étais là, genre, première nouvelle, on nous pique des ingénieurs software dans le monde entier, genre, d'où est-ce qu'on est mauvais? Comme on est mauvais dans le cloud, on n'a qu'à licencier les technologies de Microsoft et installer Microsoft Azure chez Orange, et puis, on est bon, on aura du cloud souverain, quoi. Et en fait, moi, mon approche était de me dire, au-delà du fait que je ne suis pas nécessairement ultra d'accord avec cette approche-là, pour des raisons relativement simples, hein, je fais par exemple les droits, mais au-delà de cet intérêt-là, mon point était de dire, je ne comprends pas tellement comment vous voulez construire après une industrie du futur là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que développeur, si on te dit, à partir de maintenant, tu vas faire juste de l'intégration de briques faites par d'autres, et à la limite, dès qu'on peut, on fait du no-code et puis ça ira bien, quoi. C'est pas très enthousiasmant, en fait, comme discours. Et donc après, pour garder des profils pertinents comme celui de Steve, qui a fait gagner beaucoup d'argent dans la French Tech, parce que le rachat de Zenly, c'est un très beau rachat. Est-ce que c'est motivant en tant que développeur de se dire, en fait, toutes les technos pertinentes, tous les trucs compliqués, ils seront faits ailleurs. Et puis, vous êtes prié de faire de l'intégration, quoi.
Ça dépend. Enfin, ça dépend ce que tu appelles intégration et trucs pertinents. Mais moi, si tu veux, ce côté, enfin, tout ce débat cloud souverain, je me sens un peu en dehors, quoi. Dans le sens où, disons que j'ai moins d'intérêt déjà que toi, évidemment, mais enfin que vous, pardon, évidemment, mais moi, si tu veux, enfin, mes problématiques quotidiennes, elles sont à 10 000 bornes de ça, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que si je sais pas trop à qui ça s'adresse, en fait, c'est à dire que est-ce que c'est pour des entreprises qui, de toute façon, devrait être sur des clouds souverains, auquel cas on leur dit dans ce cas-là vous êtes sur des clouds souverains et vous avez des trucs qui vous manquent sur ces clouds souverains, donc on va aller fast-tracker le truc en mettant du MS, pourquoi pas. Est-ce que le truc c'est de dire vous êtes chez Azure, autant dans ce cas-là être chez Orange, parce que c'est pareil, mais en même temps c'est pas pareil. Il y a plein de sujets comme ça où je me demande en fait quelle est l'audience, quoi. Moi personnellement j'en fais pas partie, enfin j'ai pas l'impression d'en faire partie parce que tout simplement moi j'utilise des trucs qui me font kiffer et des trucs qui résolvent mes problèmes, enfin qui résolvent mes problèmes. C'est-à-dire que ce que je veux dire c'est que dans une mécanique de start-up, l'outcome, c'est la vie ou la mort, quoi.
Donc, on est complètement d'accord. Mais en fait, moi, je suis pas. Moi, mon approche du cloud souverain n'est pas de dire aux gens, vous devriez utiliser du cloud français. Moi, mon approche, c'est de dire, genre, comment voulez-vous garder de la R&D pertinente en France et des ingénieurs pertinents en France si la seule future qu'on leur dit, c'est de dire, dès que ça deviendra sérieux, on achètera à l'étranger, tu vois. Et du coup, est-ce que pour autant, on n'a pas déconné suffisamment fort pendant plusieurs années pour faire des plans de contention là tout de suite? Si, certainement. Est-ce que pour autant, c'est ce qu'il faut faire là tout de suite? Tu vois, je pense que c'était pas nécessairement la bonne déclaration à faire. Et je pense que si tu veux, ce qui est important, c'est qu'on puisse dire à des développeurs aujourd'hui, si vous restez bosser dans des boîtes françaises, il y a un avenir pour vous. Il y a
Alors,
un avenir en tant que
ouais.
développeur à faire de la à bosser dans des boîtes en France.
Si tu prends le, on va dire, si l'enjeu, je pense, hein, c'est de les cerveaux, quoi. Clairement, oui, il y a de quoi faire plein de trucs en France. Et à commencer aussi par avec, enfin, ce qui est annoncé sur le cloud souverain est pas, enfin, à mon sens, pas incompatible, puisque de toute façon. Le but, c'est d'avoir le customer. Après, une fois que tu l'as, à service équivalent, pas de changement de code ou pas de migration, si tu veux, le truc fonctionne, quoi. C'est d'ailleurs aussi pour ça, par exemple, que quand t'es chez, quand t'as un cluster Kubernetes chez GCP, tu restes chez GCP parce que tu sais que le cluster il marche bien. Ou alors, tu utilises un, je sais pas, un SQL hosté et tu te fais pas chier et c'est ça qui fait que tu restes, tu vois. C'est pas parce qu'évidemment c'est pas juste les VM quoi. Si c'était les VM, ce serait facile de
Bah
migrer
oui,
ou ce serait
aujourd'hui,
envisageable.
dans le cloud, ce que tu achètes de plus en plus, c'est le software. Et
Absolument.
clairement, c'est de plus en plus la stack software. Et quand on dit, bah, du coup, c'est cette partie-là du marché qu'on va larguer aux autres, t'es là, mais non, pas du tout, les gars. C'est là qu'il y a de l'argent à faire. Et en plus, on a plein de développeurs. Donc, au contraire, c'est
Ah,
ça qu'il faut qu'on fasse.
sauf si peut-être l'autre outcome c'est de trop gêner le truc et d'y aller brique par brique quoi. J'en sais rien, hein, je t'avoue que je connais pas, j'ai pas de contact au ministère, mais
Ah non,
si l'enjeu c'est d'y aller brique par brique, ça pourrait faire sens. Je sais pas à quel point, si tu veux, une fois que t'es loqué chez MS, alors Teams, ouais, Teams, je vois bien, enfin, quand t'es chez Teams, t'es chez Teams quoi. Mais cela dit, même combat quand t'es sur Google Apps ou quand t'es sur, je sais pas l'équivalent chez, non, y a pas d'équivalent vraiment chez AWS, mais ça c'est une partie du truc. Et je vois bien aussi chez GCP le fait d'avoir tes identités Google Apps bindées sur le machin pour ta team. Mais bon, ça n'empêche pas les gens d'avoir du Google Apps et de faire du AWS. Donc je suis pas sûr que ce soit un vrai truc. Par contre. Je me dis, tu vois, en voyant bah, la liste, tu vois, même Clever, il y a un sujet d'offre, peut-être d'offre, de perception de l'offre et d'écosystème, en fait, tout simplement. Que
Ah bah.
Scaleway, pour le coup, Scaleway, c'est, alors à mon sens, un des seuls qui avait réussi à trojaner le truc par les plateformes ARM, où c'était une des premières fois où je voyais des Américains. Acheter du Scaleway parce que ARM, mais
Mais
à
regarde
l'époque.
pourquoi. Ils ont fait de la recherche, ils ont proposé un produit
Bien
innovant,
sûr, bien sûr.
ils ont fait quelque chose de d'orthogonal à tout le marché en faisant quelque chose de, tu vois, au lieu d'essayer de courir derrière. Ils ont fait une autre proposition, tu vois.
Ouais, bien sûr,
Et
ouais. Mais même avec ce
aujourd'hui,
qu'ils
tu
font
vois.
pour le M1, hein, ce qu'ils ont fait pour le M1, ça a fait beaucoup de bruit. Enfin, pour les Mac M1, ça fait beaucoup de bruit. Ça a pas, en termes de fric pur, ça n'a pas dû leur coûter non plus des milliers, des cents. Ça coûte cher, mais je veux dire, au regard de l'outcome, c'est pas non plus la fin du monde. Et de
Oui,
l'investissement
après, je
potentiel.
pense que là, ils se font un peu niquer par Apple qui a décidé de lancer son propre
Ouais,
service de
attends,
KPI.
attends, attends. Attends, attends. Moi, je serais client d'un truc comme ça, et crois-moi, avec le truc d'Apple, j'y suis pas encore. Mais non, parce qu'en plus, le truc d'Apple, ça tourne sur du Intel déjà,
Non,
donc.
mais toi, en plus, avec tout ce que tu fais avec, enfin, sur le mobile et quand même la puissance de Snap, t'as pas eu un avant-goût de cette intégration continue de chez Apple. Parce qu'en plus, enfin, juste pour
Ouais.
ceux qui ne savent pas, Zenith, c'est une application un peu compliquée, avec des parties en Go, des parties en natif dans chaque application mobile. Le build est, enfin, le build est
Un peu
costaud et fait que tu es
tartine, ouais.
devenu un espèce de gros expert de Bazel.
Un évangéliste surtout, du coup, ça m'a sauvé la vie, donc ouais. Du coup, ouais.
Mais du coup, enfin, sur le build de mobilité, Steve, gros dossier. Et donc, il faut pas qu'il ait accès à ce machin.
Alors, je pense qu'il y a une perception, je pense qu'on ne se rend pas compte, enfin, c'est enregistré, donc je ne vais pas machin, mais disons, il y a une perception assez particulière de ce qu'est le développement iOS at scale. Il faut voir que le dev iOS at scale, ce n'est pas fait par énormément de monde. Malheureusement, on en fait partie. Et notez que je dis malheureusement. Hein.
Ah ouais.
Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a plein de tools. Enfin, l'expérience de développement d'iOS at scale est extrêmement complexe. Et tu t'aperçois que pour faire simple, c'est la bite et le couteau. Et c'est la bite et le couteau que tu t'appelles Snap, que tu t'appelles Lyft, que tu t'appelles Pinterest, que tu t'appelles Uber. Et j'ai été, hein, j'ai
Je sais pas
été
si tu te
chez
souviens,
Lyft.
il y a eu un article ou un thread il n'y a pas longtemps, grandiose, d'un des ingénieurs de Uber qui parle du massacre que ça a été. Ouais, c'était un thread, c'est bon, je l'ai retrouvé.
Ah, le
Il
recoller.
raconte toute l'histoire du build où ils ont tout migré en Swift, ils étaient les premiers à tout passer en Swift.
Ouais, je me souviens.
Et ils ont payé, mais hyper cher, enfin, ils ont essuyé des plâtres, genre, vraiment, vraiment violents.
Ah oui, non, mais
C'est bien
c'est.
cool là-dessus d'ailleurs.
Je
Enfin,
te dis,
t'es.
quand tu rentres dans des data centers, enfin des data centers, non, je dis des data centers, mais c'est pas ça du tout. Dans des grosses boîtes de la Silicon Valley, et je dis des grosses boîtes, hein, des grosses boîtes en dizaines de milliards, hein, et que tu vois en fait, bah, tu ouvres une porte, tu vois, d'une pièce qui fait, je sais pas, 20 mètres carrés, et tu as des iPhones, tu vois, branchés sur des Mac mini, branchés sur des racks, tu vois, et le truc est fait sur des étagères IKEA, tu vois. Et ça s'est fait tourner toute la CIA, les tests de boîtes en dizaines de milliards, tu vois. Et donc les gens vont dire non, Snap, non, non, mais je parle pas de Snap là, hein, je parle d'autres boîtes, et je l'ai vu de mes yeux, et avec des gens d'autres boîtes qui valaient elles-mêmes des dizaines de milliards qui étaient venus visiter parce que c'était le state of the art.
Ouais, avec tout le monde qui se prend la même
Ouais.
tronche. Enfin,
Et.
les grosses applications mobiles posent des problèmes imblairables. Enfin, vraiment.
Ah ouais, non mais. Ouais, ça va loin, hein. Franchement, je ne veux pas dire de ce que font Snap, par exemple, mais Snap, ils ont des problématiques de. Juste, tu prends la build. Juste la build. Pour faire Snap, c'est un truc de malade. Parce que ils font tout, quoi. Il faut savoir quand même que Snap a une toolchain LLVM custom. Qui produit, enfin bon, c'est compliqué, mais je sais pas si c'est public, mais en tout cas, ils ont une chaîne LLVM custom. Il faut que tu intègres cette build LLVM custom dans ton pipeline, enfin, tu vois. Mais que pour certaines lib, parce que les autres, c'est du GCC, enfin. Et ça, il faut que ça marche, tu vois. Et ça, il faut que ça ship un artefact que tu ships à tes clients. Parce que tel moteur 3D ou tel pipeline de VR ou
Ah oui, c'est
d'AI, il
vrai qu'il y
marche
a
comme
tous les
ça.
putains de pipelines de VR à la con dans Snap,
Ouais,
ça doit être
je
un
te parle même
putain
pas
d'enfer.
de la mécanique de distribution des lens. Les lens, c'est un truc de malade. Genre, ils m'ont expliqué comment ça marchait, je pourrais pas te le réexpliquer tellement c'est complexe. Mais c'est une violence. C'est-à-dire que tu vas
Alors
par
que c'est
exemple à la Tour
tellement facile
Eiffel.
de créer un lens, enfin ça je trouve que c'est
Bah
un
ouais.
gros succès chez Snap,
Bah
c'est
imagine,
incroyable.
tu vas à la Tour Eiffel, d'accord? Tu vas à la Tour Eiffel,
Ouais.
tu filmes la Tour Eiffel, ça détecte que c'est la Tour Eiffel, ça l'anime en 3D, tu te dis déjà stylé. Mais après, tu te rappelles que ce code qui fait ça là, il a été téléchargé parce que tu étais à côté de la Tour Eiffel. C'est pas genre
Ouais.
du code qui est mis dans l'app et puis ça attend if Tour Eiffel, tu vois. C'est-à-dire que tout ce système de reconnaissance, de meshing, de photogrammétrie, etc., tout ça, c'est téléchargé. Donc c'est shippé, c'est exécuté, c'est distribué. Moi, je suis très admiratif. Donc t'imagines les problématiques, tu vois, je vais pas dire, ouais, de build, de CI, de test, et ça, je te dis ça
Distribution.
pour l'avoir vu, hein, le code
Et
source
de
de la
réussir à pas
caméra de.
s'engueuler avec Apple et de
Ah non,
réussir à pas s'engueuler avec Apple dans le process.
mais. Mais là, tu parles d'iOS, mais si tu prends par exemple Android, le code source de la caméra Android, de la caméra Snap, c'est ça se compte en plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de lignes de code. Donc tu vois quand même le niveau d'ingénierie qu'ils ont mis sur le sujet. j'ai pas le chiffre, mais c'est, enfin, ils poussent le truc à un niveau. En même temps, c'est normal, hein, c'est le métier. Mais et ça, tout ça, ça doit être testé à chaque fois. Donc,
Et le code, qui permet de faire ça, je pense qu'il doit être hébergé dans GitHub, ce qui m'amène au sujet suivant, avec une transition comme on en a le secret dans Message à caractère informatique. Ça a été le lancement cette semaine de GitHub Copilot, auto-génération de code. Donc, si tout le code de Snap est dedans, il y a peut-être moyen de régénérer tout Snap à grand coup de GitHub Copilot. Moi, je vais être transparent avec vous cette semaine. Moi, j'ai fait du management de la compta. J'ai pas joué avec GitHub Copilot.
Non, tu peux pas. Il faut être. T'es sur waitlist pour l'instant.
T'es sur waitlist.
Ouais.
Pour ceux qui savent pas, donc GitHub Copilot, globalement, c'est un assistant d'autocomplétion entraîné avec l'AML de GitHub, du contenu de GitHub.
Et donc, ils sont censés te générer. Alors, apparemment, ils te génèrent très très bien ton fichier de licence. voilà, parce que c'est le fichier qui est le plus souvent présent et le moins et qui change le moins en fait. Mais ouais, il te génère pas mal de choses. Et pareil, j'ai juste vu. Bon, je suis pas non plus dans la whitelist, donc j'ai juste vu des.
Attends, tu peux demander d'être intégré dans la putain de whitelist.
Ouais, mais il faut attendre quoi. La waitlist, hein, pas white.
La wait. Ah oui, d'accord.
Waitlist, ouais.
Moi, je suis même pas encore dedans, donc. Mais j'ai juste vu des 2-3 screens, etc. Bon, il y a des gens qui se posent 2-3 questions apparemment sur Twitter.
Ça troll.
Ça troll un peu, et notamment ils se posent 2-3 questions sur est-ce qu'ils ont entraîné l'IA uniquement sur des repos publics, parce que parfois le truc te générait visiblement des secrets de repos privés.
Oui, enfin après des gens ont publié des secrets sur des repos publics, oui, on en a vu. Hein.
C'est clair. Le nombre d'Indiens qui viennent nous dire de chercheurs en sécurité. De nationalité indienne en l'occurrence, qui viennent nous dire oui, j'ai trouvé une faille de sécurité chez Clever, j'arrive à me connecter à cette base là parce qu'en fait dans GitHub il y a des gens qui ont mis juste leurs identifiants de leur base de données, tu vois,
ouais.
En clair, et là t'es bon, ouais, oui, bah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, quoi.
Non, mais après je pense que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me dis que c'est quand même le futur. Clairement, c'est de la complétion. Si tu le vois comme la complétion plus, tu te dis, bah ouais, tu vois, à un moment donné, je sais pas moi, faire un itérateur sur une map ou X milliards de trucs que tu fais X fois, tu vois, où tu veux le fast square root de Carmack, bon bah voilà, tu vois, c'est fin. Voilà. Ça remplace le copier-coller, quoi. Donc c'est moi, plus intégré.
Vas-y. Pardon.
Non, j'allais dire, bah du coup, voilà, après. Il y a aussi le sujet sur l'implémentation où, en effet, il y a même des gens, ils ont tapé, je sais plus quoi, genre, je fais mon CV, et ça a copiloté, enfin, ça a suggéré, en fait, le website d'un type random, qui était un software engineer dans la Bay Area, tu vois, mais genre vraiment, enfin, ça avait généré le website, machin. Donc, il y aura des ajustements. Je suis très curieux, quand même, de savoir comment ils vont gérer tous ces micro-ajustements. Parce que, tu sais, ce genre de truc, c'est un hard problème parce que c'est comme les maps. Tu vois, les maps, tout le monde croit quand tu fais une map, tu dois raisonner globalement, alors qu'en fait, une map, c'est la succession de local, en fait. Tu vois, c'est l'addition des expériences locales. Ouais. Et Copilot, c'est la même chose, tu vois. Ça peut marcher at scale, mais en fait, on s'en fout, tu vois. Ce qu'il faut, c'est que ça marche sur... Les infinités de micro-scale de à ce moment-là, j'ai besoin de ça. À ce moment-là, machin. Qu'est-ce qui se passe si ça me suggère, ça s'est vu, hein, il y a eu des tweets, ça me suggère une API key valide pour SendGrid. Et ça l'a fait, tu vois. Genre, il disait, je veux faire un mailer et ça a généré du code qui parlait à SendGrid avec une API key valide. Et donc, ouais. SendGrid a dû acknowledge en mode, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont vu un pic énorme de connexion. GitHub a du acknowledge, et du coup je me demande comment ils vont faire la curation sur ce genre de truc là.
T'imagines l'opportunité de spammer GitHub, oui, le projet sûr. De démo quand t'es un mailer pour que tu sois auto-suggéré dans GitHub Autopilot comme solution de mailing.
Ouais, bah clairement, il y a un... bah, je pense qu'ils y ont pensé quand même, hein, mais oui, évidemment. Tu vois, si ça, pourquoi
Moi,
c'est
j'attends
super.
qu'ils fassent ça en utilisant les réponses Stack Overflow.
Là, ça va être un... là, ça va être un enfer, là. Mais oui.
Hein.
Non, mais c'est. Je pense qu'ils y ont pensé, mais c'est. Disons que, enfin, là, on est clairement sur un moonshot à 10 ans, quoi. Enfin, je pense, hein, en tout cas. Hein. Et c'est 10 ans de. Moi, par exemple, je ne pourrais pas travailler sur un projet comme ça, quoi. Tu vois. Parce que tu sais que pendant. Dans 10 ans, ce sera bien, mais pendant 9 ans et demi, ça va être de la merde. Tu vois. Ça va être du corner case, du.
Du
Ouais.
dénivelé,
Mais
le
c'est.
dénivelé du
Ouais,
code.
exact. Mais c'est exactement comme la conduite automatique, hein. La conduite automatique, c'est entre guillemets simple en théorie. Tout le monde sait que c'est dur, mais c'est dur parce que c'est la somme de toutes les merdes locales, toutes les l'infinité de situations à la con. Donc ouais, mais je suis très enthousiaste quand même. Hein. J'avoue que on a fait un test avec un ami qui s'appelle Manfred Touron pour ceux qui le connaissent. Et
Ah,
lui,
est-ce
là,
que Manfred a un accès, lui?
ouais, il m'a montré, il m'a fait une démo. Franchement, c'est pas mal, tu vois. Il y a des trucs, franchement, ça marche bien, tu vois. Genre, tu fais un. Je te donne un con, tu fais un helper type ou un wrapper type pour un truc. Tu vois, tu fais le add, puis après, tu tapes sub, tu vois, puis hop, il génère le sub automatiquement. Parce qu'en fait, il est contextuel à où tu es dans le fichier, à quel type tu travailles et tout. Et c'est pas juste des snippets améliorés, quoi. C'est un peu contextuel. Il interprète tes variables, tu vois, il connaît un peu le contexte. Alors, des fois, il suggère des blocs, des fois, il suggère juste des lignes. Ça dépend. Mais c'est pas mal, hein, franchement. Là, en l'occurrence, ouais, ça t'automatise des trucs que t'aurais fait de toute façon, quoi. Pareil pour les tests. Du coup, ça a généré le test automatiquement, quoi. Pas toujours exact, mais ça a généré un test. Donc bon, pour une V1, je trouve ça assez. Et puis l'intégration est incroyable, hein, par contre.
Ouais.
Ça, je veux dire, enfin ça, on l'en relèvera pas. Hein, c'est très fort. Hein. C'est tab tab tab. Hein. Donc bon.
Je pense que maintenant qu'on vient de parler d'un très nouveau soft, le mieux ce serait qu'on parle d'un soft
Je
un peu plus ancien.
te vois faire les transitions du coup parce que je vois le dans le document. Je te vois le truc en live.
BitTorrent à 20 ans. C'est le
Ah ouais.
protocole qui a 20 ans, c'est ça?
Je crois que c'est le logiciel. Mais est-ce que c'est la même chose que le protocole? Je pourrais pas te dire. En tout
Oui,
cas, c'est le 20
c'est
ans
le
du
premier
poste
athlète,
de Bram Cohen qui dit voilà, enfin c'était le 2 juillet, mais qui dit voilà, j'ai implémenté BitTorrent. Bon, j'imagine que oui, il a fait le protocole directement avec quoi. Ouais, et
Et
je sais
d'abord,
pas si...
merci. Et d'abord, merci.
Ouais. C'est vraiment une techno moi pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Alors, un peu moins depuis que Bram Cohen a fait Chia parce que du coup je suis un peu déçu de lui, mais
C'est quoi
ouais,
Chia? Tu peux peut-être
bah,
expliquer un peu vite fait.
c'est une crypto-monnaie qui utilise, au lieu d'utiliser ton CPU, utilise ton disque.
Ah oui, c'est vrai, la fameuse.
Ouais, voilà, je vois ton regard, je vois tes sourcils.
La crypto-monnaie, voilà.
Mais il était hyper intéressé, Bram Cohen, sur ce sujet depuis. Pfou. D'ailleurs, une des théories, ce serait que Satoshi Nakamoto, c'est un des gens qui a travaillé sur, je ne sais plus comment s'appelait ce projet, je crois. Mojo, ouais, c'est ça. Mojo Nation. Mais bon, bref, parce que c'était un proto de crypto-monnaie, tu avais des coins, et du coup, bref. Non, et ce que je trouve admirable dans BitTorrent, c'est que ça montre la puissance des systèmes décentralisés, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc qui, quand même, a été activement attaqué depuis que ça existe. C'est non seulement toujours vivant, mais ça ne fait que croître de plus en plus.
Et même le point de faiblesse du truc qu'est la DHT tient plutôt bien en fait.
Tu parles des bootstrap nodes, parce que la DHT en elle-même, oui, ouais. Ou alors, juste ouais, peut-être pour expliquer, pour ceux qui ne savent pas, la DHT, c'est donc ce qu'on appelle une distributed hash table. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une hash table complètement décentralisée. Sauf que. Et donc les nodes s'échangent. En fait, donc il y a un espace de clé qui est divisé et chaque node a un bout d'espace, quoi. Et du coup, ils peuvent se. Et en fait, tu peux itérer de node en node pour aller chercher ta clé, enfin le ou les nodes qui contiennent la valeur de la clé que tu cherches. En l'occurrence, c'est basé sur une implème qui s'appelle Kademlia. qui était utilisé par eDonkey. Je crois que c'était le premier réseau qui s'en servait. ED2K, c'était avec Kilemlia. Oui. Et en fait, comme tout DHT, il faut bien que tu rentres. Donc, il te faut au moins un node. Et donc, tu dois bootstrapper ta DHT avec les nodes. La bonne nouvelle, par contre, c'est que tu le fais qu'une fois. Une fois que tu as parcouru un peu, machin, enfin, en tout cas, BitTorrent garde son state. Et donc, il te suffit de un node pour redécouvrir tout l'ensemble, en fait. Donc, en théorie, je suis d'accord avec toi, mais en pratique, ça marche.
Ah ouais, non, mais moi,
ça marche dans le sens où c'est très dur à couper, quoi. C'est même pas coupable, d'ailleurs.
C'est hyper balèze à couper. Moi, je trouve ça d'une grande... d'une grande fiabilité aujourd'hui. J'ai pas de problème avec ça. Et nous, on l'utilise beaucoup chez Clever. C'est comme ça qu'on distribue nos images.
Je te vois faire la transition.
On pourrait.
On a tous eu beaucoup d'expérience avec BitTorrent. Toi, c'est bien toi qui avais fait la clé HDMI avec Popcorn Time dedans.
Alors pas Popcorn Time, mais il y a très longtemps, j'avais fait un tout. Bah justement, en fait, c'était pendant cette époque de Code Civil où j'avais fait un tool qui s'appelait Pulsar. Et en fait, enfin, d'abord il s'appelait XBM Setorrent et après Pulsar. L'idée, c'était de dire, à l'époque, j'avais une connexion qui faisait 3 mégaoctets secondes, donc j'étais le roi du monde, quoi. Et je me suis dit, comment ça se fait que je me fais chier à télécharger un film plus vite que le temps qu'il met, alors que du coup, je pourrais le streamer, en fait. Mmh. Et du coup, c'est parti de là, et vu que j'avais pas envie de faire un player, bah, j'ai dit, c'est quoi le player desktop en mode à la télécommande qui marche bien? Et en l'occurrence, c'est XBMC. C'était à l'époque XBMC. Et donc j'avais fait ça, Popcorn Time est sorti peut-être un an après, ou entre 8 mois et un an après. Parce que c'était très communauté XBMC. Hein. et du coup après, bah, je l'avais mis sur XBMC tournant sur du embedded, sur de l'ARM à l'époque, donc des box télé, des clés HDMI, etc. Bah, je l'avais foutu dessus, et du coup j'avais sur ma télé, enfin tu pouvais mettre sur ta télé en mode cliqueta. Choisissais un film, tu disais stream, et puis bah ça allait chercher sur BitTorrent le meilleur version, le meilleur rendering, ou je sais pas, enfin meilleure résolution, ce que tu veux. Ça, t'avais un tout petit buffering peut-être de 20-30 secondes, et puis après ça lançait le film, et pendant que tu regardais le film, ça téléchargeait en fait le film. L'avantage, c'est que tu partageais le film ou la série tout le long que tu la regardais, en fait. Donc pour le réseau en lui-même, c'était un net positif malgré le fait que tu stream, parce qu'il faut savoir que BitTorrent, ça marche sur le principe que tu télécharges de manière aléatoire les blocs, et c'est comme ça que du coup ça scale. Quand tu fais en séquentiel, ça fout la merde du coup, parce que tout le monde t'as des hotspots, mais en vrai il y avait des papiers scientifiques qui montraient que c'était pas vraiment un problème, parce que t'as quand même une distribution temporelle, et puis parce que t'as des randomness qui font que ça passe, en fait. Et aussi parce que le fait que, avant d'être juste un sale leecher où tu télécharges et tu supprimes et tu... Voilà. Là, bah, pendant 2-3 heures, en fait, tu partages. Et donc, du coup, ton ratio est meilleur, quoi. Donc, pour le réseau, c'est meilleur puisque tu as une distribution temporelle, encore une fois. Et donc voilà. Et je trouve ça... Ouais, BitTorrent, du coup, depuis cette époque, j'ai une grande attachement à BitTorrent parce que c'est un truc qui a été attaqué massivement. Et qui bah, marche toujours. Marche toujours très bien.
Et qui est utilisé en dehors de la version film, en fait.
C'est
utilisé d'abord pour balancer des assets, et aussi notamment les distribs Linux, etc. Machin. C'est utilisé, alors pas BitTorrent, le protocole en lui-même, mais tu as un certain nombre de protocoles de décentralisation comme ça qui sont utilisés. Spotify, notamment, essaye de faire ça, et notamment, si tu écoutes la même chose que ton voisin de bureau, en fait, il passe par LAN.
Alors, ils ont arrêté.
Ils ont arrêté ?
Ouais, ils ont fait ça au début pour
économiser.
Qui était très intéressant, pour économiser de la BP, exactement. Et ils ont coupé ça, je crois, à l'époque où ils ont sorti la version web. Ou la version iPhone. Donc ça doit faire peut-être 8 ans et des poussières.
Oh putain, fait chier.
Ouais.
Non.
Dommage, ouais.
Ouais, c'est dommage. C'est surtout que moi, il y a 8 ans et des poussières, je me suis tapé le binding pour faire fonctionner Spotify en C sur fucking Android. J'ai dû devenir chèvre. je me suis tapé tout le binding JNI de mes fesses, là. La compilation, enfin, genre, tout était insupportable. Genre, sans déconner, j'ai cru que j'allais bouffer mon bureau. C'était à se flinguer. Et tu me dis qu'en fait, depuis, le machin fait du download HTTP sans s'emmerder.
Ouais, à une vache près, ouais. Ouais, je pense que c'est crypté, ouais. Tout c'est crypté machin bidule, mais je crois que c'est à l'époque de l'iPhone qu'ils ont arrêté. Ce que je trouvais, moi, triste, parce que je trouvais l'idée absolument géniale. Surtout qu'en plus, ils avaient vraiment un truc bien foutu, Spotify, parce que on se rend pas compte, hein, mais il y a 10 ans, le fait que tu cliques sur une track et qu'elle joue instantanément,
c'était ouf.
C'était la killer feature de Spotify, quoi.
Ouais.
Et en fait, ils avaient tout un système, tu sais, de prédiction et ils hostaient que, enfin, tu vois, tu téléchargeais que les, je sais pas, les 10 premières secondes de la page. Ouais. Via eux, et tout le reste, c'était en peer-to-peer, en fait.
Ouais.
Du coup, en fait, les 10 secondes, mais c'est, quand ils pensent, c'est genius, parce que les 10 secondes de démarrage que t'avais déjà sur ton disque, du coup, prêt à jouer, ils te laissaient le temps de bufferiser la suite, en fait. Et moi, j'adore ce genre d'approche, tu vois, hyper symbiotique, en fait, entre l'expérience et la tech, et même l'archi, parce que du coup, ça marche merveilleusement bien, en fait. Enfin, à l'époque, c'était quand même révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est given, mais
ouais, à l'époque, après, ouais. C'est des use cases quand même qui existent de sharing de data. Je savais pas qu'ils avaient arrêté. Je sais que ça a été fait en partie aussi par les gens de chez Dropbox, qui à une époque te permettait de synchroniser en LAN. En fait, ils s'étaient rendu compte que les gens se servaient de Dropbox comme un partage Windows, en fait.
Oh, ouais, au boulot, ouais, bien sûr.
Et que du coup, ça, c'était cool. Et après, c'est une feature qui a été ajoutée dans S3 et qui a été supprimée. J'ai lu ça il y a quelques jours et j'en étais extrêmement triste. Mais en fait, pour chaque clé S3, tu pouvais downloader
un torrent.
Ouais. Et en fait, j'ai toujours trouvé cette feature fascinante. J'ai toujours eu envie de m'en servir. Et en fait, elle a été supprimée avant que je m'en serve. Alors, je m'en fous, dans Cellar, on peut décider de la garder, parce que nous, on est des punks. Mais.
Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'il y a peu de temps, je parlais avec Steren. Tu vois ce qu'il sait, Steren Giannini ?
Ouais,
c'est le, voilà, et ben, tu sais pas si tu sais, mais.
Peut-être dis-le pour les autres, parce que.
Pardon, ben, j'allais dire, ouais. Il est, c'est le product manager de Cloud Run. Ancien, je ne sais pas s'il était CTO, mais en tout cas, ancien de chez Josh Fire, pour ceux qu'on connu à l'époque, boîte parisienne. Et donc, il est product manager de Google Cloud Run. Et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas possible de refaire un... c'est ce qu'avait fait S3, si tu veux, mais avec Cloud Run, en fait. Où, du coup, tu as une sorte de tracker... T'as un tracker qui share des assets sur Google Cloud ou sur whatever. Parce que quand ils pensent, en termes de coût de distribution, c'est chambé. Mais Torrent n'a jamais eu malheureusement d'intégration first class dans le browser, quoi. Donc forcément, je crois qu'il y a que Opera qui faisait ça correctement.
Il le fait toujours correctement, Opera.
Il le fait toujours correctement.
Ça dépend de quelle édition Opera. Tu sais, Opera, il s'éclate à faire des éditions peloues. Genre, il y a l'édition gamer, l'édition bidule, l'édition machin.
Ouais.
Et en fait, ils stripent, ils font des éditions d'Opera. Et dans les éditions d'Opera, ils collent des features comme, par exemple, cette capacité à utiliser du torrent.
D'ailleurs, sur ce petit sujet, si vous n'avez jamais joué avec LibTorrent, donc je vous parle de la LibTorrent, celle en CPP machin, elle est faite depuis 18 ans, donc depuis 2003, quelque chose comme ça, par quasiment une seule personne, c'est Arvid Norberg, et je sais pas comment il fait pour pas en avoir ras la casquette, quoi, mais il continue d'être actif. Ils continuent de faire des releases, ils viennent de sortir BitTorrent 2.0 quand même. Hein.
Oui.
Donc une refonte complète du protocole et du format et de BitTorrent au sens large.
On en a parlé il y a 8 mois, je crois. Ouais.
Ah bah voilà. Et d'ailleurs, c'est sorti parce que c'est sorti sur l'implémentation de LibTorrent, justement. C'est la seule personne, enfin la première et pour l'instant la seule, à qui je donne sur GitHub Sponsor, parce que je suis halluciné en fait... de ce type. Et ce qui est fou, c'est de voir que Bon, ça, c'est quand même quelque chose qui date de 2003 quand même. Hein. Et si vous, pour ceux qui ont fait un peu de BitTorrent dans les détails, quoi, vous apercevez qu'il y a plein de concepts qu'on utilise aujourd'hui qui existaient déjà à l'époque bien. Quoi. Et le truc qui me vient à l'esprit, c'est B en code, enfin le B en coding. Le B en coding, c'est un encoding binaire de c'est JSON avant JSON. Quoi.
Ah ouais?
Ah ouais, et alors c'est un peu human readable, mais c'est de l'encoding binaire, donc paquet, un peu à la MSGPack, quoi, si tu veux, plutôt.
Ouais, un proto-buff, quoi.
Ouais, alors non, parce que t'as pas de schéma, t'as pas de schéma, mais c'est plutôt un peu free for all, quoi. Enfin, le schéma, tu vois, c'est self-describing, et donc t'encodes des listes, des int, des strings, du data, des dictionaries et tout. Et ça existe depuis ever, quoi. Enfin, c'est le format de BitTorrent, quoi, et de 2003. Et j'étais fasciné. Et là, je vous dis ça, il y a plein d'autres trucs hein, qui existent depuis très longtemps. Donc, ouais, je me suis toujours posé la question pourquoi c'était encore un peu niche. Enfin, niche, pas BitTorrent, mais le proto et la lib, parce qu'on pourrait faire des trucs incroyables avec. Hein, franchement.
Bah, de façon très personnelle, nous, on s'en sert pour distribuer les images sur nos AGV. Donc, toutes nos images à nous, elles normal, sont distribuées ouais. via BitTorrent. C'est du BitTorrent des familles. Et après, on a un autre projet plus expérimental chez nous où, en fait, on distribue les dépendances applicatives. Donc, en fait, tu tapes une espèce de proxy qui, ouais. En Node, en SBT, en Maven... est capable de comprendre et d'aller taper la dépendance applicative à côté parce qu'en fait on compile tout, on passe notre vie à taper les rate limits, donc on passe notre temps à aller chialer pour qu'on nous augmente nos rate limits de tous les dépôts, puis les gens finissent toujours par gueuler, et donc l'idée c'est, on se dit c'est plus intelligent si on en fait du peer-to-peer, et ça on l'a pas collé en BitTorrent pour différentes raisons, notamment le fait que c'était pas très pratique en termes de perf pour des raisons... Enfin, la DHT nous arrangeait pas tellement en termes de perf, on a plutôt intérêt à avoir trois serveurs maîtres dans lesquels on sait où sont les choses et dire aux gens où aller les downloader, c'est plus pertinent dans notre cas, et en fait, on fait du libp2p là-dessus.
Ah oui, ouais.
Qui IPFS, fait partie, ouais. Tu sais, du gros projet de...
IPFS.
Ouais, IPFS, ouais. Interplanetary File System, pour ceux qui ne connaissent pas.
Très bien, l'IP2P, très très bien.
Ouais. Autant Interplanetary File System, je trouve ça un peu pénible d'utilisation. Je ne suis pas complètement convaincu encore par le soft dans son expérience utilisateur. Autant l'IP2P, c'est ouf. Voilà.
Ouais, ouais. C'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour faire... En... C'est... Tu parles aussi, de... quand tu dis l'IP2P, tu parles de l'overlay aussi. Hein. Enfin, ouais. Du descriptor, machin, là... Ouais, en gros, on peut faire des, ceux qui connaissent pas, des sortes, je vais pas dire des URL, mais des adresses, quoi, qui sont absolues et qui traversent tous les trucs, qui passent par peu importe quel transport,
ouais, vers n'importe quoi. Plein de transports dans l'IP2P, c'est ça qui est hyper intéressant. En fait, je pense qu'un jour, il faudrait que j'invite Manfred pour en parler, parce qu'il est beaucoup dans ce monde du decentralized, Manfred, et c'est vraiment un mec brillant là-dessus.
Bertie est basé entièrement sur IPFS. Enfin, entièrement, ça utilise énormément IPFS.
Enfin, les protocoles d'IPFS, quoi. Pas nécessairement les implèmes ni le code d'IPFS, mais vraiment les protocoles.
Alors, en l'occurrence, si, le code, mais alors après, dans quelle partie, tu vois, il utilise
voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas un client IPFS, quoi. C'est un peu plus touchy et compliqué que ça.
Ouais, alors je veux pas dire de conneries, mais ouais, il y a peut-être un peu les trucs comme ça, mais ouais, ils sont très impliqués sur IPFS.
Bon, ils sont impliqués dans tout ce qui est decentralized web, quoi.
Et, oui, au sens large. C'est intéressant. Ouais.
Bref, c'est une idée, je voulais qu'on note ça dans une issue pour inviter. Mais je crois que j'ai déjà noté Manfred, en fait. Faut qu'on invite Manfred. Mais je crois que j'avais prévu d'inviter Manfred pour la release de Bertie. Et ça, c'est le côté où potentiellement je l'invite en 2028, tu vois. Non, Manfred, on ne te trollait pas. En fait, on t'aime tous, mais voilà. Non, en vrai, c'est hyper intéressant et vous pouvez aller voir Bertie Tech et demander un accès à la bêta. Je sais pas si maintenant l'accès à la bêta est public ou pas, mais c'est un soft que je trouve hyper cool, Bertie.
C'est un beau projet, ouais.
C'est un projet qui
est... un projet complexe.
Vraiment, vraiment beau. Et Manfred est un mec hyper cool et son équipe fait un sacré boulot. Tiens, j'allais coller le lien de Bertie là-dessus. Et ouais, donc du coup, le P2P là-dessus, j'ai vu qu'on avait prévu de dire qu'en fait, t'es pas les seuls à faire du peer-to-peer là-dessus, parce qu'en fait, il y a aussi un truc dans la communauté CNCF qui est censé permettre de faire du BitTorrent au-dessus de ton Kubernetes.
Ouais. Ouais, ça s'appelle Dragonfly. C'est fait par Alibaba. Et alors, c'est intéressant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse, Dragonfly, parce que ça combine deux problèmes que j'ai avec Docker, en tout cas OCI, enfin, les images, quoi, Docker. C'est un, évidemment, la distribution, et deux, le temps de démarrage, quoi. En fait, le vrai problème, c'est combien de temps il me faut entre le moment, on va dire, où je fais mon cube apply, et mon container effectivement live, quoi, enfin mon pod live. Et on s'aperçoit que par exemple sur des sujets de CI, etc., la distribution du conteneur de, enfin d'image de build, c'est un vrai problème, quoi. Si tu fais une image de build Android, c'est 4 gigas, tu vois. Si tu fais entre le SDK, le NDK, etc. Donc, et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que tu t'aperçois que tu télécharges 4 gigs pour finalement peut-être utiliser que 10% de ces 4 gigs, en fait. Et donc, Dragonfly, ça utilise en fait, ces deux parties bien séparées, enfin, c'est assemblé dans un seul produit.
Ouais, c'est un merge parce qu'il y a quelques temps, il ne le faisait pas. C'est un merge. Moi, j'ai essayé de booter Dragonfly, ça s'est pas très bien
Je
passé.
l'ai pas essayé. Je trouve que
Bah,
c'est, enfin, j'ai vu la doc et j'ai dit, oh, ouf.
c'est
Bon,
ça.
j'espère que ça va s'améliorer,
C'est
mais.
du Alibaba, donc tu as toute une partie de la doc qui est en chinois,
Ouais.
pur chinois. Tu as des parties de la doc qui font référence à des bidules qui n'existent plus. Enfin,
Mais
c'est.
ça fait partie du CNCF. Donc on peut espérer que peut-être un jour, dans un futur, je sais que tu les
Ouais.
adores en plus, donc ça
Ouais, mais en
s'améliore,
fait,
quoi.
non, mais en vrai, le projet m'a hyper intéressé parce qu'en fait, au début, enfin, quand on a retapé, il n'y a pas longtemps, on est passé retaper un peu notre bidule en peer-to-peer, BitTorrent, ou enfin, nous, on a un bidule, enfin, le machin qui gère le peer-to-peer chez nous, BitTorrent, machin, c'est un truc qui s'appelle Juggernaut, beaucoup de code maison, c'est pas nécessairement la partie du code dans laquelle on s'est la plus excité dans notre vie.
Non, ça n'a pas bougé depuis très longtemps.
Voilà, et donc il n'y a pas très longtemps, j'étais parti m'enjailler en disant, genre, peut-être qu'il y a mieux. Et en fait, on pourrait utiliser Dragonfly, même si à la fin, on ne fait pas des containers, tu vois, diffuser des
Ouais,
pierres.
bien sûr, bien
Mais
sûr.
en fait, je suis tombé dans un truc tellement compliqué et pète-burn que j'ai fait, genre, oh, j'ai
Et
du travail, tu
finalement,
vois, genre.
le bout de notre PT qui traîne depuis 9 ans, bah, il fait le taf, quoi.
Après, c'est intéressant parce que tu vois, t'as l'aspect distribution et t'as l'aspect aussi startup. Tu vois, pour ceux qui connaissent pas, ça reprenait un peu les principes d'un truc qui s'appelle CRFS, qui en fait permet de faire un file system virtuel sur une image OCI. Et donc l'idée c'est que ton container il démarre tout de suite en fait, et tu vas aller pull que effectively les choses que tu utilises.
Ouais, c'est une
Alors
sorte
évidemment, il faut le faire un
d'overlay
peu bien,
over the
hein.
network qui te permet de
Ouais, voilà.
limiter ta quantité d'IO. Moi, la dernière fois que j'ai essayé ce machin-là, en fait, factuellement, c'était quand même très pénible. Tout ton start, en fait, ton start était rapide et en même temps, ça se mettait à laguer quand je voulais pas et ça chargeait mon CPU. Mais
Alors après, je
j'aime bien
peux
le
pas te
concept,
dire, ouais.
mais pour moi, on est quand même sur du lab, tu vois.
Ouais, mais dans l'esprit, tu vois, tu te dis, bon, ouais, ça pourrait le faire quand même, hein, tu vois. Alors après, il faut voir dans quelle mesure et s'il y avait des contraintes, machin, mais moi, par exemple, pour un sujet de CI, tu vois, pour compiler, tu vois, une appli Android où il te faut 4 gigs, parce que tu sais, en plus, la CI, tu vas provisionner la machine, elle démarre, elle pull l'image, enfin, tu vois, t'as 1 minute 30 d'overhead bêtement. Donc, du coup, tu fais des bricoles où tu essaies de réutiliser la machine, etc. Mais, ou de cacher en local les images ou ce genre de truc. Là, ça pourrait un peu optimiser le truc de manière un peu stylée, quoi, de manière intégrée, de manière propre. Donc, j'ai pas testé, hein, bah, manifestement, c'est pas encore pas tout à fait cuit, mais.
Et j'ai pas l'impression qu'il y a un manpower délirant dessus, c'est surtout ça moi qui m'inquiète.
Ah, alors ça, je peux pas te dire.
Et je sais qu'il y a un projet concurrent chez Uber aussi, donc il y a un projet concurrent à Dragonfly, donc qui n'inclut pas la partie CRFS, mais il y a un projet concurrent à Dragonfly chez Uber, où pareil, je l'ai testé et je suis tombé
Kraken.
face à un truc où, comme souvent les projets d'Uber, je sens que les mecs d'Uber s'en servent, qu'en fait une fois de temps en temps, il y en a un qui fait un push sur GitHub, mais dans l'absolu, voilà, tu vois.
Ouais, je regarde l'historique.
Non,
Après, tu sais, si c'est stable, si ça
mais c'est
marche.
pas ça, c'est que là il y avait un côté genre démerdez-vous et ne posez pas de questions, tu vois,
Ah, d'accord.
genre
Soyez bien content qu'on le release déjà.
c'est ça, mais c'est celui que vous utilisez en interne, ouais, mais presque, mais en fait chez nous c'est lié à des bidules internes qu'on pouvait pas release et on a été coupé dedans un peu en vrac, mais bon, ça coupe les
D'accord.
ah, d'accord, ok, bah cool.
Bah, je te l'ai mis, ça s'appelle Kraken.
Ouais, c'est ça, Kraken. Ouais. Je me suis beaucoup battu avec Kraken. Intéressant, hein, par ailleurs. Mais pareil, enfin voilà. Du coup, on est parti faire notre bidule en libp2p. En me disant qu'un jour, on intégrerait les images BitTorrent dans le bidule en libp2p parce qu'on serait de bonne humeur. Voilà, c'est pour être transparent. Et ce machin-là a un peu de mal à avancer parce qu'on a beaucoup de boulot. Mais,
comme tout le monde, ouais.
Mais ce libp2p m'a bien convaincu, par contre.
S'il y a quelqu'un qui se sent de le faire un jour, même en start-up, moi, je paierais pour avoir accès à une techno comme ça. Hein. Je le dis.
Hein. Ah ouais.
Ah bah, tu te rends compte, tu t'imagines, pour une CI, c'est game changer, en fait. Ta CI, au lieu de mettre, je sais pas, 2 minutes avant d'avoir le check ou le pas check, elle met, je sais pas, 10 secondes. Bah, yes, please, hein, tu vois. Yes, please.
Mm. Non, mais clairement. Bah, puisqu'on parle de CI, un des points qui vient très souvent dans le build, parce que c'est quand même un sujet d'importance quand on fait du build.
T'es quand même vachement fort sur les transitions. Ah bah, je sens clair. Que...
c'est un sujet sur un peu d'image immuable aussi.
Tout à fait.
Voilà.
À quoi servent les points lock?
Ouais. Je sais pas si vous avez déjà fait du Node ou même du Rust ou même de plus en plus, je crois que Ruby.
Du Gradle, on l'a
vu. Du Gradle,
du Go.
Comment s'appelle le truc en Ruby aussi
Mais en Go, vous avez du packaging
Bundler. Oh là là, ça y est, il commence.
Oui, Bundler, il fait du lock ouais. En Ruby aussi. Mais en gros, vous lancez votre NPM install, votre cargo build, votre bundle quelque chose là. Voilà, ou votre Go mode je sais pas quoi. Et en plus de vous télécharger les dépendances et de compiler des choses, ça va vous créer un fichier qui va s'appeler quelque chose .lock. Par exemple, en Node.js, l'article qu'on vous a mis, c'est package-lock.json. Et en fait, c'est un snapshot, un instant T de toutes les dépendances qui ont été installées. Donc ça contient en gros la version très 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 détaillée des dépendances, avec les dépendances des dépendances, enfin voilà, avec tout l'arbre de dépendances, avec à chaque fois la version exacte qui est installée, l'URL exacte d'où le paquet a été téléchargé, et même la checksum du paquet.
Oui, c'est pour ça que c'est pas utilisé en Maven par exemple. En fait, il faut que ce soit un système de packaging dans lequel tu puisses dire genre je veux au-dessus de la 0.13 ou je veux la 0.13.x quoi. Donc c'est ce genre de truc, c'est dès qu'il peut y avoir une ambiguïté, l'idée du lock c'est que c'est la version sans ambiguïté.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait un npm install par défaut il regarde dans le package.json, vous avez mis un oh, bah, moi je veux la version 2. quelque chose de ça et ça va vous prendre la dernière qui est dispo. Et du coup, à chaque fois que vous lancez un NPM install, bah, vous n'allez pas avoir le même résultat. Surtout, en plus, avec les dépendances transitives, vous risquez de... Enfin, le résultat peut changer dans une dépendance de dépendance de dépendance. Et l'avantage du package lock, c'est que quand vous faites de la CI ou quand vous voulez partir en prod, au lieu de lancer, donc là, l'exemple est sur du Node.js, mais au lieu de lancer un NPM install, vous lancez un NPM CI. Et là, ça va demander à ce qu'il y ait un package-lock.json qui existe. Et ça va utiliser exactement les dépendances en retéléchargeant exactement les paquets, même des URL qui ont été mises en cache, etc. Ça va vérifier les checksums. Et vous êtes sûr que le build est reproductible, en plus d'être un poil plus rapide parce qu'il y a moins de résolution à faire vu qu'elle est déjà mise en cache.
C'était un billet de blog de Nicolas Brondin qu'on vous file voilà l'idée du truc est vraiment de dire bah si jamais vous vous posez des questions sur à quoi servent ces satanés point lock, vous avez toutes les réponses dans ce billet là.
Nous c'est ce qu'on utilise maintenant par défaut depuis que ça existe il me semble sur Clever.
Ah oui,
on lance un NPM CI.
Ça doit bien faire au bas mot 7 ans qu'on fait ça.
Le NPM CI n'existait pas à une époque. Donc c'est un peu plus récent que ça, mais ouais.
Ouais, c'est assez vieux quand même. Ouais.
Mais en gros, voilà, on utilise NPM CI pour build à partir du package lock. Ça permet d'avoir quelque chose de plus reproductible et d'éviter d'avoir des gens qui viennent dire mon application, elle ne se lance plus.
C'est juste avant que ça s'appelle NPM CI, ça s'appelait NPM install --, je ne sais plus quoi, mes fesses en quantique.
C'est vrai.
Et du coup, personne s'en servait. Alors que le jour où ils ont collé un raccourci qui s'appelait NPM CI, les gens ont appris que ça utilisait.
C'est vrai. Que ce ne soit pas par défaut, en fait. Et que la notion de je veux update mes packages dans les contraintes que j'ai données, ce soit une action active et pas une action passive en fait.
Je suis d'accord avec toi. Dans cargo, t'es dans le cas où effectivement il commence par regarder le point lock et tu lui dis de dérégler les dépendances.
Ouais.
En Rust, par exemple. En SBT, non, on va pas parler d'SBT. Non. En Go, je sais pas. En Go, de toute façon, c'est quoi? Tu faut aller sur un forum en PHPBB, downloader un truc. Et...
Ah, ça y est, il est parti, là. Il est parti, on l'arrêtera pas.
Les URL GitHub avec les tags des commits sont directement dans le code, donc c'est plus pratique.
Exactement. Non, non, mais ouais, bah, tu fais pareil, quoi. Mais il y a le... T'as le Go mode qui résolve tes dépendances transitives et qui est mis à jour. Il n'y a pas de fichier .lock, t'as un fichier .sum qui vérifie les checksums. Mais il n'y a pas de fichier lock au sens propre, quoi. Par contre, quand tu veux update, tu dis je veux update mes dépendances à whatever.
Mmh. Bon, alors je troll. C'est
parce mais je m'en sers plus, moi, de ça. Hein.
Y a pas longtemps donc, de taper le build de Snap, tu sais, le bidule d'Ubuntu, là, de packaging de mes fesses, là, de Ubuntu. Là. Mes fesses sont très impactées.
Et pourquoi t'as fait ça?
Parce que moi, je tourne sous Exerbo et que j'avais décidé, je ne sais plus pour quelle raison, que j'allais installer Snap au-dessus dans Exerbo.
Parce que Flatpak ne lui plaisait pas.
Ouais, je crois que j'avais décidé que je faisais la gueule à Flatpak.
En fait, du coup, tu disais que tu étais dans une souffrance et tu t'es dit, pour annuler la souffrance, je vais faire une souffrance plus forte.
Ah ouais.
Ça m'enlèvera l'esprit de cette souffrance-là vers une autre.
C'est ça. D'accord. Là, je crois que je me suis enfoncé des clous dans la moitié de la jambe pour le plaisir. Rien que builder ce bordel de Snap, ça a été l'enfer. Et je crois qu'à la fin, je finis par aller download le paquet Snap d'Ubuntu et me rendre compte que comme c'est du Go,
ça va.
Ça moyenne tranquillement dans son Linux tout seul.
Deux, trois fichiers au bon endroit et on est parti, les copains.
Pour
quoi.
Faire un dev tout tard et voilà. Quoi.
Ouais, voilà.
Je crois qu'on en est arrivé là à la fin. Et pour finir, j'avais déjà passé un bon 2 heures sur le sujet et je n'ai pas installé le truc que j'avais prévu d'installer avec.
Du coup, c'est 2 heures bien dépensées, quoi.
Je pense que là, ouais, on la dépense relativement forte. Ouais, je te l'accorde, je suis pas sûr d'avoir maximisé le jour là. Bon, je pense que là, on a bien bouclé sur le point lock. Je pense que tant qu'on en est sur les builds et la traçabilité du build. Ouais. Il y a une espèce de shitstorm qui arrive dans la communauté Audacity. Qui veut m'expliquer ce qui s'est passé dans la communauté Audacity?
Bon, déjà, Audacity, c'est un logiciel qui permet de faire du montage audio. Voilà. Avec des gros boutons tout ronds, avec un effet 3D, qui n'ont pas changé depuis 15 ans.
Oui, et qui a rendu service à quand même beaucoup de gens.
Ouais, de ouf.
C'était pas une emblème open source d'un autre tool à l'époque C'est pas Virtual Dub, mais un truc dans le genre.
Il y a peut-être un truc comme ça, ouais.
Un truc que genre, pas Audacity, mais qui avait un nom un peu proche, il me semble. Mais ça, je vous montre, ça remonte, je dirais mi-année 2000, hein, 2000, entre 2005 et 2010. Mais bon, peu importe.
Et ouais, il me semble donc que dans Audacity, le type a mis, c'est du Sentry, c'est ça ? Quelque chose pour remonter des métriques d'utilisation.
Voilà, ouais.
Et ça, c'est bon, c'est classique, surtout dans un soft open source, tu as envie de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faut optimiser. Par contre, dans les conditions d'usage, comme le type est américain, il y a un petit mot qui s'est glissé en mode si le gouvernement me demande, je dirais pas non.
Mais parce qu'il n'a pas le choix, en fait.
Parce qu'il n'a pas le choix, c'est ça.
Ah ouais.
Exactement, parce qu'il y a, cette problématique de, à partir du moment où tu as de la donnée sur le sol américain et où que tu es américain, d'ailleurs, tu es un peu obligé de les lâcher si on te les demande. Et donc, ça a fait un peu une shitstorm. Il y a des gens qui ont voulu lancer un fork, même, ou un truc comme ça.
Oui, bah, le classique, hein. Comme il y a eu avec VS Code. Ouais.
C'est ça.
Je suis un petit peu la shitstorm me dérange un peu quand même parce que déjà la télémétrie est optionnelle et opt-in. Donc en gros ah non attendez, il n'est pas opt-in. Non, c'est juste le phrasé qui est un peu chelou. On peut opt-out, admettons. Okay. Je vais dire si c'est opt-in, je sais pas trop comment il va faire marcher son truc, mais bon. On peut opt-out. Le côté on fait un fork, vous allez voir, ça va être trop bien. Malheureusement, ça c'est pas une solution parce que le fork il vit 15 jours et puis après il arrête de vivre, quoi. Donc ça, on l'a vu beaucoup de fois. Sauf s'ils ont peut-être un pipeline automatique d'enlever les trucs. Mais pourquoi pas.
Avec Copilot.
Ouais, voilà. Mais de toute façon, il a dit qu'il allait. Enfin, il a dit qu'en fait, ils n'allaient pas le faire. Mmh. Ah non, attendez. Il va. Ouais, c'est ça. Donc, il dit la télémétrie est optionnelle et disabled par défaut. Donc, en fait, quand tu installes, tu as un truc qui te dit aidez-nous, send anonymous data bon, ou
ça,
alors
du coup,
don't
c'est
send.
Propre, en fait, ça.
Oui, mais comme tu peux le constater, ça ne. Le mal est fait. Mmh. Enfin, le mal est fait. Comme tout Storm, il est fait pour les.
Ouais,
pour
tu sais, la puissance d'une brand comme. Enfin, tu vois, c'est quand même une énorme brand Audacity.
Non, mais voilà, il y a un mal pour les 15 prochains jours, quoi. Et puis après, tout le monde aura oublié, et puis on retournera.
Ça se trouve, sur 15 jours, t'es un peu. Enfin, tu vois, t'es un peu optimiste, hein, tu vois.
Non, mais après, j'ai vu ma timeline Twitter comme tout le monde. Mmh, non, pas comme tout le monde, mais comme en tout cas, peut-être ceux de la tech s'enflammer là-dessus. Je trouve ça un peu. Typiquement, c'est le genre de truc auquel j'ai pas envie de participer, quoi.
Ouais, moi aussi, en fait, d'un côté, je suis en colère de la loi américaine qui fait ça. De l'autre côté, en fait, ouais, je trouve la polémique assez stérile. Et en fait, pour moi, ça remet en avant un truc qui est peut-être un peu passé de mode, mais qui, en fait, factuellement, est bien, en fait. On avait des fondations dans l'open source dont c'est le boulot de traiter ce genre de merde, en fait. Et du coup, tu files le projet à une fondation, genre Apache ou Eclipse, tu vois. Eclipse, ils ont même dit, on en a tellement marre d'avoir des problèmes avec la loi américaine, on installe un headquarter à Bruxelles et on migre l'IP des trucs à Bruxelles parce que la loi européenne est moins débile que la loi américaine. Mmh. Et tu vois, et je trouve ça très bien, en fait. Enfin, voilà, je trouve ça très bien.
Non, je te rejoins. Après, d'un autre côté, tu vois, je comprends le dev, vu l'énergie et le temps qu'ils mettent sur le tool, tu vois, je comprends qu'ils ont envie de savoir comment le tool est utilisé, quoi. Est-ce qu'on a fait des features pour rien? Est-ce que ça me fait penser, il y avait eu une shitstorm sur, pour le coup, c'était TikTok, où les gens s'offusquaient que TikTok récupérait la résolution du téléphone, tu vois. Il y avait des métriques, mais c'était des métriques d'analytics, tu vois. Quand tu fais un produit, tu veux savoir quel téléphone dans le truc qui tourne, quoi. Parce que il y a un bug sur ROM custom sur téléphone chinois, tu dois le savoir, en fait, parce que les gens ils te disent bonjour, ça marche pas, tu sais pas pourquoi, tu vois, ils t'aperçoivent que tel ROM custom, ça, c'est des histoires à Zenni qu'on a eues. Le temps passé à gérer la long tail de téléphone Android, il est colossal, quoi. Et tu te prends, en fait, tous les cas possibles de mais sur la ROM Huawei ou sur la ROM OneTouch, ils ont changé ce truc-là. Et donc, du coup, ça, si tu ne sais pas que c'est un OneTouch, c'est compliqué, quoi.
C'est donc, pas en train de se calmer, cette histoire de passer son temps à foutre le bordel dans le système Android par les constructeurs?
C'est comme...
Tu chies à qui arrive.
Non, mais si tu veux, c'est fait comme... C'est comme toujours, ça marche bien pour les projets small à medium. Et puis dès que tu scales, c'est foutu, en fait. Parce que tu vas forcément toucher une API un peu obscure du SDK, quoi, que t'as besoin, et cette API là, elle est implémentée un peu différemment, tu vois, ou alors ils ont décidé de la nuker sur tel à partir de tel, évidemment, minor ou patch level de tel ROM.
Ouais.
On a eu quand même des gens avec des ROM, des téléphones achetés en Chine avec des ROM russes, tu vois, et qui n'étaient pas du tout la même ROM, enfin qui n'était pas la ROM pour le téléphone, tu vois. C'était une ROM qui était pour la gamme de téléphone, mais pas celui-là. Et somehow ça marchait, et on avait des crashs de Zenni. Et là, je peux te dire que pour trouver le truc sans le téléphone en plus, parce que genre t'as des crashs qui sont genre, enfin tu sais, c'est pas possible. Tu regardes le code d'Android, tu vois, tu dis ben non, mais enfin comment, tu vois. Et en fait, il faut après aller chercher. Il y avait eu un sujet d'ailleurs avec, je crois que c'était Facebook, qui remontait les libs dynamiques. Qui uploadait les libs dynamiques.
Oui, pour avoir une idée de ce qui traînait dedans.
Ouais. Et ça, c'est un truc, quand tu l'as pas vécu, tu te dis qu'un truc comme ça, c'est pas dégueu, parce que des fois, genre, t'as des crashs, tu ne sais pas. Et si t'as pas le téléphone, tu ne peux pas savoir. Mmh. Et donc, à un moment donné, nous, on a eu des histoires où t'as Google qui release une mise à jour de Google Play, et tu as une explosion des crashs. Évidemment, une explosion des tickets qui vont avec, des gens qui t'insultent, enfin, tu vois, tout le... Et genre, tu n'es maître de rien, en fait. Et le hack, c'est d'aller faire un call avant, parce qu'il y avait une race condition, mais ils l'ont réalisé quand même, ils n'ont pas vu, enfin, tu vois. Si tu pilotes à l'aveugle, franchement, franchement, bravo. Hein. Ouais. Donc, du coup, ouais, voilà, je... Disons qu'il y a un spectre, quoi, tu vois.
L'autre spectre, c'est la data qui peut être laissée dans un cache. Et la data qui peut être laissée dans un cache, ça permet également de faire booter plus vite les applicatifs. C'est les copains de chez Joli Code qui viennent de se taper l'article qui est genre utiliser Varnish avec Symfony, la vraie version, avec toutes les options de Symfony pour piloter du Varnish à l'intérieur de votre code pour le rendre plus perf. Et vraiment, si vous faites du Symfony, que vous avez problème de perf sur votre applicatif et que vous avez besoin de répondre vite, cet article est une bible. Ce sera 20 minutes de lecture bien employée. Mmh. Moi, je pense qu'on va l'ajouter à la doc de Clever. Et il faut savoir également que tous les applicatifs PHP sur Clever sont fournis avec un sidecar Varnish. Donc,
qu'il faut configurer vous-même.
Oui, qu'il faut que vous bricoliez. mais qui vous permet d'utiliser toutes ces fonctionnalités-là, factuellement.
Est-ce que c'est un sujet, hein, configurer Varnish ?
Oh, ben, il y a un langage en soi. Hein. Mmh. Voilà. Je sais pas si tu as des envies sur le cache et sur Varnish. Mais j'avais trouvé cet article très bien et je voulais le dire à tous ceux qui faisaient du Symfony. Et voilà.
Je trouve l'article très bien aussi, ouais. Ça rejoint un peu, il y a eu quelques articles qui sont sortis récemment là, d'optimisation from rien du tout jusqu'à et puis tu sais, étape par étape, et ça c'est très bien parce que des fois quand on optime on est un peu à l'aveugle et du coup commencer par le commencement et aller gratter et voir ce qu'on peut gratter, etc. Je trouve ça très bien ces articles comme ça, quoi. Tu vois, qui t'amène.
Ouais, le truc qui est marrant avec Varnish en particulier, c'est que c'est que tu as une API de gestion en back-end. Donc, en fait, ton PHP, pendant qu'il est en train de tourner et de compute la réponse, il peut envoyer des petits messages au Varnish pour dire « Ah, au fait, cette page-là, elle est plus d'actualité, donc vire-la du cache. » En fait, tu peux avoir ton application qui met à jour, enfin, qui soit met à jour, mais en tout cas, met à jour la connaissance du Varnish, de savoir ce qui est caché et de justement toute la partie invalidation de cache. Ça demande un boulot monstrueux. Hein. Ça demande quand même de pas mal lier le Varnish et ton Symfony, en l'occurrence. Mais ça peut faire des perfs assez incroyables.
Si vous n'avez pas lu, je vous recommande le design document de Varnish. C'est très, très chouette. C'est très, très rapide parce que Varnish, au final, c'est très simple. Mmh. Et c'est très, très chouette. C'est un design document qui a été repris. Enfin, les préceptes ont été repris sur Kafka aussi à l'époque. Et l'idée c'était de dire que les gens font des trucs ultra fancy, nous on va faire des trucs qui sont ultra simples et on va laisser le kernel faire des trucs fancy. Et donc ça utilise à fond buffer cache, etc. Et du coup le design document de Varnish, pourquoi c'est rapide, c'est très très intéressant et c'est très très accessible, et d'ailleurs celui de Kafka aussi, hein, en passage. Kafka n'est pas accessible, mais le design document est accessible.
Et en plus, vous donnera de bonnes idées de pourquoi il faut faire du Pulsar hébergé chez Clever Cloud.
Attention, parce que moi, je suis passé team Red Panda, donc attention.
Red Panda ?
Ah, bah, je vais t'en parler, tu vas kiffer. Enfin, je peux en parler, d'ailleurs.
Bah, vas-y, parle-moi de Red Panda.
Écoute, tu vois, là, je fais dérailler ton track, là. Non, Red Panda, c'est une réimplème de Kafka avec Systar.
Ok.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Systar, c'est un framework pour faire des serveurs. mais dans un modèle qui s'appelle le thread per core. Alors, le thread per core, c'est une façon, c'est une architecture, dit ce qu'on appelle share nothing, c'est-à-dire on ne partage rien. C'est-à-dire que les cores entre eux ne se parlent que par message interposé. Pas de partage de la mémoire, pas de partage des tâches, pas de work stealing comme par exemple tu peux avoir dans du multithreading normal. Le work stealing, c'est mettons j'ai deux cores, il y en a un qui est bloqué, enfin qui fait des trucs, l'autre il fait rien. S'il y a un job qui arrive sur le core 1, le core 2 va voler le job au core 1, comme ça bah, on a tous les cores qui sont bien équilibrés et tout. Le share nothing, enfin le thread per core, c'est qu'on a une application qui a un thread par cœur et uniquement un thread par cœur et ne communique que par message interposé. L'idée, c'est que du coup, on peut faire des optimisations très fortes avec le NUMA et aussi des accès au cache qui du coup sont très locaux. Pas d'invalidation de cache, intercore, etc. Donc tous ces mots compliqués pour dire que le gain potentiel de faire une appli avec Systar, c'est 10x par rapport au reste.
Ok.
Et donc en l'occurrence, ceux qui ont inventé Systar, donc c'est en l'occurrence Avi Cavity, Avi Cavity qui est celui qui a quand même créé Xen, et du coup ils ont fait une boîte qui s'appelle SilaDB, enfin SilaDB, ouais.
Ah mais c'est ouais, c'est ça, ok, c'est le mec.
C'est ça. Coup, ouais. Et en fait ils ont réimplémenté avec Systar Cassandra. Qui dans une DB qui s'appelle SilaDB et qui fait en gros Cassandra avec 10x les perfs de Cassandra et mesuré. Ça, c'est pas un truc que tu vois, enfin, c'est ce qu'ils disent, mais tu vois, on est des connards, on a mesuré. Hein. Et oui, donc les perfs sont là. Et il y a quelqu'un de très intelligent qui s'appelle Alexander Gallego qui a fait qui s'est dit, mais attends, je vais réimplémenter Kafka en fait. Et il a réimplémenté Kafka avec Systar et c'est insanement performant, c'est de la violence en barre.
Ok.
La bonne nouvelle en plus, c'est que donc sur plein de dimensions, pour ceux qui connaissent pas Kafka, pour opérer Kafka, il faut avoir un PhD en Kafka. Il y a tellement de potards, tu peux tellement te tirer dans le pied 50 fois. Donc c'est
pas que c'est pas facile tous les jours Kafka.
Voilà. C'est et là en l'occurrence Red Panda, c'est tu le démarres, ça marche quoi. Ça marche pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des systèmes d'auto-optimisation. Par exemple, il va détecter sur quelle archi tu es. Si, par exemple, tu le démarres sur Google Cloud, il sait que tu es sur Google Cloud. Et sur Google Cloud, il faut configurer la machine comme ça. Donc, ils ont ce qui s'appelle un auto-tuner qui détecte 50 000 scénarios. Ça, c'est un truc. Et ça enterre Kafka en termes de perf, mais pas que, en termes de feature set aussi. Par exemple, ils ont fait ce qu'a fait Pulsar, c'est-à-dire la transformation inline des données. Donc là,
trop bien.
Bah ouais. Pour ceux qui font du GDPR, je vous reconnais. L'idée, c'est que vous pouvez directement transformer les données quand elles arrivent dans le broker, et le broker va les transformer pour vous et les redispatcher, plutôt que de faire un consumer qui reproduce comme on ferait en Kafka. L'avantage, alors là où Pulsar va le faire en Java, enfin en JAR, donc voilà, Red Panda le fait en OASM. Et donc avec des perfs folles. Et Alexander, c'est pour ceux qui sont intéressés, il fait des live Twitch où il dev sur des trucs et je vous assure que c'est de la violence de cerveau. Il pousse le bouchon hyper, hyper, hyper loin. C'est très, très chouette. Donc si vous êtes curieux, vous faites du Kafka et que ça commence à vous, hein, je vous invite à regarder Red Panda.
Ouais, écoute, faut que je teste ce truc.
Ouais. Bah, suis Alexander sur, je sais plus son Twitter, je crois que c'est Max Erno. Sur Twitter.
Ah bah écoute, je viens de follow et en fait, je me rends compte que Red Panda fait partie de mes trucs à lire.
Bah voilà.
En fait, ça fait un moment que je suis dessus, mais ouais. Bah écoute, faut qu'on essaye.
Alors, je sais que tu vas pas être content. Ça fait du raft. Itself, donc désolé, je sais que
j'ai beaucoup de keepers. Problème avec Raft, j'ai un problème avec les incompétents qui font du Raft. Donc déjà, si tu veux, tu prends les développeurs Go.
Ça y est, il est parti. Mais ouais, du coup, ouais, enfin, je vous recommande, c'est très très bien. Puis c'est un très bon ami, donc j'en profite pour faire de la pub, mais voilà. Et shout-out à JB de chez nous, de chez Zenly, qui a build, battle-testé Red Panda. Et qu'on, on travaille beaucoup avec Alexander pour le mettre en prod.
Cool.
Mais c'est impressionnant. Hein, franchement, pour vous donner un ordre d'idée, tiens, sur un sujet proche, Alexander, il avait fait un framework de remote procedure call dont les tail latency, c'était genre le P100, je crois, était à 20 microsecondes. Et le P95, okay, genre à 8 microsecondes. Tu vois, c'est ce genre de perf. Et c'est assez fort de voir qu'il y a des gens qui travaillent sur... Enfin, tu vois, toi, tu crois que t'es perf. Enfin, toi, ça va, tu vois, tu te plains pas. Et eux, ils débarquent, tu vois, et eux, ils ont un ordre de grandeur de moins que toi. Et ils te disent, ah, mais là, c'est un peu lent. Genre, par exemple, Avi Cavity, il m'a expliqué, ce que je l'avais vu à la CILADB conférence, que ouais, non, mais bon, c'est bien, mais les Atomics, quand même, c'est super lent, quoi. Et t'es là, ah oui, d'accord, ok. Parce que pour moi, les Atomics, c'était le truc, justement, ma petite botte secrète, tu vois, qui était rapide. Non. Ouais, parce qu'il y a une synchro des caches. Ouais, ok. Eux, ils sont vraiment. Et c'est fou de voir que, vraiment, toute la stack, le niveau de, où ils descendent sur le métal, quoi, c'est. Et du coup, le métal le rend bien. C'est la
solution, tu vois.
Ah bah bien sûr. Et sur ce sujet, si le thread percore vous intéresse, parce que c'est un domaine qui me fascine en fait, hein, le thread percore, il y a une implément Rust qui s'appelle Glomio, qui est faite par un ancien de
Scylla. Ah ouais, j'ai joué avec Glomio, moi.
Qui s'appelle Glober Costa, qui est un ami aussi, et qui du coup c'est un ancien de Scylla, donc tu vois, il est parti chez Datadog. Et il a fait Glomio. Ça s'appelait Scipio avant, mais il y a eu des problèmes de copyright, je sais pas quoi.
Ouais, non, mais Glomio, c'est basé sur IO Ring. Je me souviens,
ouais, exactement. En fait, l'idée, c'est de dire, quand C-Star a été fait, parce que C-Star a compilé, je vous assure que c'est la fin du monde. J'avais essayé de faire un binding Rust, justement, pour C-Star. Parce que je m'étais dit, putain, c'est trop bien, en fait. C'est juste que c'est en C++ et ça fait chier. En Rust, ce serait quand même vachement mieux. Et bon, c'est vraiment une tannée de ouf à compiler, quoi. Il faut que ce soit une version spéciale de Fedora et tout, bref. Et il s'est dit...
Et d'ailleurs, ça a un impact sur tous les trucs qu'il utilise, notamment CILADB, qui se prend quand même une image de truc pénible à compiler.
Mais par contre, du coup, il avait fait ce truc-là en disant, je vais faire, en fait... Alors, c'est pour des fichiers, Glomio, c'est pas pour du réseau, mais on pourrait le faire sur le réseau. Mais il s'est dit, je vais faire C-Star tel que C-Star devrait être fait aujourd'hui, c'est-à-dire sans la dette, sans IO, sans tout ça, quoi. IO-Ring. Et pareil pour le réseau. Puisque du coup, C-Star, par exemple, tu peux le compiler avec DPDK. Et donc, du coup, passer ta carte en polling. Et là, par contre, tes perfs, c'est autre chose. Hein. Tu vois, c'est... T'as tes CPU à 100% tout le temps, mais c'est très bien. Il faut qu'ils fassent des choses, tes CPU, tu vois. Et du coup, ouais, là, lui, il s'est dit, on va dégager tous les trucs, tous les vieux trucs legacy, du full IO Ring, et les perfs sont. Les perfs sont au rendez-vous, quoi. Et c'est ce genre de modèle-là, tu vois, qui te fait passer encore, tu vois, le game au-dessus, quoi. Malheureusement, c'est pas commodifié, tu vois. Ça reste encore un peu.
Ouais, tous ces modèles-là, en fait, ça finit par être commodifié. Tu vois, par exemple, les modèles acteurs qui étaient extrêmement compliqués à une époque deviennent hyper communs aujourd'hui. Tu peux très bien imaginer que tes modèles se multiplient après dans le temps, tu vois.
J'avais beaucoup d'espoir sur Rust pour ça, avec leur pluggable reactor là. Mais malheureusement, vu que AsyncRead, AsyncWrite sont pas dans la STD pour l'instant, c'est encore où tu fais du Tokyo, où tu fais du small, où tu fais du et c'est contaminant, si tu veux, d'une manière. Donc il faut que tu aies des adapteurs et tout. Mais si ça ship, en théorie, en fait, tu vois, ce monde te devient accessible, en fait, presque. Puisque du coup, c'est le réacteur qui va s'occuper de faire le share nothing. Et derrière, tu vois, toi, tu fais du async await normal, quoi. Donc j'ai beaucoup d'espoir de ce côté-là. Pour que tu vois, pour rendre ça un peu commodifié, quoi.
On parle de perf. Non, on se
franchement, t'es très fort hein, sur les transitions. J'étais en train de me dire comment il va transiter là-dessus.
Tu vois, on parle de perf, on parle de parsing, mm-hmm. et on se souvient tous de cette petite histoire de parsing GTA, où GTA mettait une éternité à booter. Et là, il y a un article qui sort.
Il n'est pas tout récent, en fait.
Rappel ouais. rapidos, quand même, le contexte mettait 8 plombes ouais, à bouter.
On en avait parlé en mars. En gros, GTA Online est devenu de plus en plus lent à démarrer. Et au bout d'un moment, il y a un type qui se dit « Non, mais c'est pas possible que sur certaines machines, on mette 8 minutes à lancer GTA Online, voire 20 minutes. » Enfin, bref, il y avait des temps, mais monstrueux, quand tu as envie de jouer. Perdre 20 minutes à lancer ton jeu, c'est quand même compliqué. Et en gros, il avait fouillé, il s'était rendu compte que dans une boucle, il y avait un scanf qui traînait, et que scanf scanne une string jusqu'au bout pour connaître sa longueur à chaque fois. Ce qui faisait que au début, en fait, je sais plus, il téléchargeait une liste d'objets que tu peux acheter dans le jeu.
Ouais, des prix, ouais.
Un truc comme ça, des prix, etc. Et en fait, bah, ce JSON a augmenté sur 5-6 ans. Et c'est devenu un énorme JSON où le parsing était fait un peu à la main avec le fameux scanf qui, à chaque fois que tu voulais rescanner genre le prix, il regardait jusqu'à la fin du JSON. Donc, imaginez la complexité quadratique du code. Ouais. Quoi, exactement. Et donc, il s'est amusé à... Il avait fait, alors dans l'article, je ne sais plus comment il faisait, mais en gros, il remplaçait un point .so. Pour faire
ouais, ce qui est beau, c'est qu'il a fait un patch LDD. Dans le binaire pour casser ça. Ouais.
Ça, il fournissait sa propre fonction de boot parsing pour remplacer par une implémentation beaucoup plus rapide, et il est passé, enfin, il a divisé par 70%, enfin, il a diminué de 70% le temps de démarrage de GTA avec une quantité de boulot pas incroyable, pas monstrueuse, quoi. Et en fait, il a fait un follow-up de l'article parce qu'il a eu plein de commentaires sur son blog, sur Twitter, etc. Des gens qui disaient, non, mais comment les gens de chez GTA, alors, comment ils s'appellent déjà? C'est Rockstar, c'est ça? Non?
Rockstar, oui. C'est pas lui hein, qui a fait l'article, hein, c'est un autre.
Ah, c'est un autre qui fait l'article?
Ouais.
Ouais, donc il y a eu un article de follow-up qui disait, bah écoutez, il y a eu cet article-là, il y a eu plein de gens qui tapaient, en fait, sur les gens de Rockstar,
de Rockstar.
Mais comment est-ce qu'on peut être aussi mauvais, etc. Et le type répond, bah en fait moi j'ai fait la même erreur, c'est-à-dire que je viens de rouvrir un vieux projet à moi où je trouvais qu'effectivement il était un petit peu lent, et il y avait exactement le même scanf qui traînait dedans. J'ai appliqué exactement le même patch que pour le truc GTA, et pareil, je suis passé d'un parsing de... Alors, c'était quoi? C'était une représentation ASCII de Vertex ou je ne sais pas quoi. Enfin, bref.
Ouais, c'est un visualiseur d'objets 3D.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et il est passé, ouais... Et en plus, c'est un visualiseur d'objets 3D où il se vantait d'être extrêmement performant, en plus. Hein.
Ouais. Et donc, il est passé coup, voilà. De quelques...
Je sais quelques plus, secondes, quelques secondes.
Ou ouais. Une minute ou un truc comme ça. Enfin, un temps qui était déjà correct. Mais voilà, et pareil, il a divisé par 9, je crois.
Ça, par 10.
Par 10, ouais.
Il est passé d'1,8 secondes à 199 millisecondes, ouais.
C'est ça, pour afficher son truc en 3D, ce qui est quand même assez propre. Et j'aime bien le ton de l'article.
Oui.
Qui est de dire, bah, arrêtez de taper sur les gens dès qu'ils font des conneries, arrêtez les shitstorms incroyables, parce que, enfin, regardez d'abord votre code, quoi.
Ce qui est, c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de discussions sur bah déjà comment ça, ouais, le dev qui a fait ça c'est un mauvais, etc. Et après, évidemment, Rockstar, comment ça se fait une boîte qui a des ressources infinies comme Rockstar, machin. Des questions peuvent se poser, mais pour le coup, le scanf qui lit toute la string.
Ouais, qui savait ça?
Putain, alors ça, mais je savais pas du tout, quoi, tu vois. Et en effet, bah, ouais, il remplace scanf par str2f, et puis bah, voilà, il gagne un ordre de grandeur en perf.
C'est ça.
Et ouais, qui savait que scanf, ça allait lire tout le binaire? Parce qu'en fait, en gros, ouais, ils disaient qu'ils avaient un pointeur dans le JSON, quoi, et puis ils font avancer le pointeur, ouais. et puis scanf s'il faut convertir, quoi. Mais c'est fou. Mais c'est très bien, je pense, de dire calmons-nous tous un petit peu. Mm. N'assumons pas que les autres sont des incompétents notoires. Des fois, les choses sont mal foutues et on se fait niquer, quoi.
C'est ça. Et puis,
du coup, là, ce que tu es en train de dire, c'est
corriger le problème ensemble, quoi.
C'est en train de dire que la communauté Hacker News serait toxique.
Non, tu sais quoi? Tu veux que je te dise? C'est pas la communauté Hacker News, je pense que c'est un biais humain qu'on a. Et le seul moyen de le faire moins, c'est d'en être conscient. Parce que j'ai vu... Parce que
t'es quand même l'un des animateurs du Hacker News...
Hacker News Café, ouais.
Café.
Ouais.
Donc, à la base, c'était sur... sur
c'est
Clubhouse.
Retourné sur Clubhouse.
C'est retourné?
Ça existe encore. On était sur Clubhouse. Après, Clubhouse n'avait pas de version Android, donc on avait un peu le côté, tu vois, on se tape sur le plafond de verre. Donc, on a tenté Twitter Space. Il y a des trucs bien, mais c'est surtout buggé de ouf, quoi, pour l'instant. En tout cas, le 6 juillet, c'est buggé de ouf. Et entre-temps, Clubhouse a sorti une version Android.
Donc là, on est reparti sur...
Écoute, on verra combien de temps. Je ne fais pas de prévision. Mais oui, ouais. Tous les jours à midi.
Tous les jours à midi sur Clubhouse. Du coup, retrouvez Steve qui prend la homepage d'Hacker News. Et parfois...
Pas que moi. Il y a moi, il y a Sylvain Zimmer... on est quelques-uns, Michael Rémy, Process One, ouais. Il y a Arnaud Portery, il y a Manfred, enfin toute la bande de bras cassés.
Et des fois, je passe.
Et des fois, tu passes. Et venez, parce que des fois, ça fait plaisir d'avoir d'autres points de vue, d'autres.
Ouais, surtout qu'Hacker News Café, l'idée, elle n'est pas du tout de faire du descendant, quoi.
Non, c'est 30 minutes entre nous à déconner. On a fait ça pendant le confinement et ça faisait vraiment du bien de parler aux copains, quoi.
Ouais, pendant le confinement, avec Steve, on s'est retrouvés une ou deux fois jusqu'à 3h du matin sur Clubhouse.
Ouais, c'est incroyable. Incroyable.
Ça a été tout un sujet.
Ça passe crème, hein. Ça passe
crème. Ouais, nickel.
Hein. Franchement, moi, je me sentais pas... Mais ça, on pourra peut-être le faire un jour dans une autre discussion. J'ai toute une théorie sur les applis de visioconf et de VOIP, tout ça. Et du coup, Clubhouse me donne beaucoup d'espoir, en fait, sur la stack audio.
Ah ben, la stack audio, c'est un sujet qui est clé. C'est un sujet qui permet de faire fonctionner le son. Et notamment, sous Linux, ça a toujours été un enfer.
Il est fort.
Et là,
je crois que t'avais fait exprès de la balancer.
Non, mais alors, tu sais, tu m'impressionnes, hein, franchement. Pour ceux qui ne savent pas, on a un programme, évidemment. Et du coup, je le vois passer au truc et je me dis, putain, il est créatif. Hein, c'est un métier.
C'est tout un sujet, l'audio, qui se retrouve dans Linux. Et dans Linux, ça a souvent été un peu l'enfer, l'audio. Et là, c'est un article hyper complet sur la stack audio de Linux qu'on vous propose. Alors d'abord, si vous avez des problèmes d'audio dans Linux, lisez l'article, parce que là, il y a toutes les infos dedans et globalement up-to-date. Et ensuite, c'est très intéressant.
Si vous avez des problèmes, d'audio sur Linux, je veux dire, si vous utilisez Linux, du coup, c'est un pléonasme. Ah. Faites-vous partie de 100% des utilisateurs.
Force est de reconnaître que c'est pas fait tous les jours.
Après, je pourrais te parler d'X-Render, hein, mais ça va. Je vais te laisser sur la stack audio.
T'as la stack vidéo qui est pénible. tu sais que c'est assez amusant parce qu'on parle de Pipewire dans le cas présent. Donc c'est un article en plus qui reprend tout l'historique, notamment OSS, ALSA, tout ça, Jack, Puce Audio, Pipewire aujourd'hui. Sachant que ce qui est très drôle, c'est que Pipewire à la base, il était fait pour faire de la vidéo. Pipewire à la base, c'était une sorte de démon OBS, si tu préfères.
Ah, mais c'est fait par le même auteur que GStreamer, je vois
ouais.
ça
ouais, complètement. Ouais.
D'accord, ok, tout ceci explique cela. J'allais comparer avec GStreamer, en fait.
En fait, c'était censé être le pulse vidéo, tu vois, le pulse audio de la vidéo. Et ouais, l'article est incroyable, faut lire. Ça commence quand même par réexpliquer ce que c'est qu'un son, une onde, ce que c'est qu'un décibel. Ça part vraiment de l'analogique de ouf. Et puis ensuite, ça explique comment est-ce qu'on transforme l'analogique en numérique, etc. Et puis ça reprend des trucs. Par exemple, il y a un truc marrant, c'est que OSS, donc le fameux truc qui a été remplacé par ALSA, OSS, en fait, il a été abandonné parce qu'il y avait un problème de droit. Et en fait, ils sont passés de la V3 à la V4, et la V4 est devenue propriétaire. Donc à un moment, il y a des gens qui se sont dit « Ah bah, on n'a plus de stack de son, en fait, sous Linux, donc on va faire quelque chose ». C'est même pas une question technique, c'est une question Alza commençait à arriver tranquillement, et comme OSS est devenu propriétaire, bah, les gens ont tous fait « bon, bah, on switch ». Voilà, bon, après, il y a eu tout ce qui est... ça parle de jack, ça parle de Pulse Audio.
Ça parle de toutes les fonctionnalités trop bien de Pulse Audio et de Pipewire qui permettent d'attraper le son d'un logiciel, de le sortir sur des enceintes particulières. Enfin, tu peux le transformer, de le sortir sur des enceintes particulières, tout en ayant, par exemple, une conf call d'un côté et... ta musique sur tes enceintes et en fait tu peux faire un filtre de ton micro pour que personne n'entende le son de ta musique, mais toi dans ta conf call les gens l'entendent pas, mais toi t'entends du coup la conf call via les haut-parleurs de ton ordinateur. Moi ça c'est un truc que j'ai fait beaucoup, où j'avais d'un côté le son qui diffusait sur ma chaîne un peu plus loin dans le salon, et de l'autre côté j'étais en conf call et personne n'entendait que j'avais du son, et c'était trop bien.
Parce que tu avais de la noise cancellation, un truc un peu... genre, il sait que tu joues ça, donc il peut annuler ça, ou un truc comme ça?
Ouais, là, dans le cas présent, c'était assez con. Hein. C'était juste que l'enceinte était loin, que le micro était bien directionnel et bien configuré.
D'accord.
Du coup, même pas, mais rien que le fait de pouvoir avoir le son de mon navigateur web, tu vois, d'un côté, et de zoom de l'autre, et ça, c'était trop bien.
Ça me rappelle pas mal de ce que je lis là, ça me rappelle pas mal la stack, GStreamer et Pulse Audio, ça me rappelle pas mal la stack aussi de Direct Media. Je connais plus la stack Windows, que j'en ai fait pas mal. Et c'est très proche quoi, t'as des syncs, des sources, des modules. Je pense que tous sont plus ou moins architecturés dans le même esprit quoi, après ça va être... Je serais intéressé de savoir, tu vois, par exemple, la différence entre GStreamer et Pipewire. Enfin, je vais lire l'article, évidemment. Mais...
GStreamer, c'est un codec. Enfin, c'est un codec. C'est une bibliothèque de codec et de...
C'est un moteur, surtout, aussi. Hein.
C'est un moteur, oui, mais qui va... Voilà, d'encodage. Pipewire, ça reprend un peu les idées de Jack. Je ne sais pas si tu vois la stack qui est plutôt utilisée en professionnel. Et surtout, Jack a quand même le problème, entre guillemets, d'avoir, en gros, besoin d'un kernel...
real-time. Ouais.
Et alors Pipewire c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que Jack c'est vraiment ça s'appelle Jack parce que le principe c'est de dire bah t'as des câbles virtuels et c'est tu ça, les branches de là à là comme tu fais entre ton ampli de basse et voilà et tes trucs, et du coup Pipewire ça reprend un peu cette idée-là, sachant que ça a été même carrément créé pour que, enfin la mode en ce moment c'est tout ce qui est Snap, c'est Flatpak, c'est tous ces trucs qui t'installent un logiciel dans un conteneur et qui te le lancent.
Et le sujet Wayland au Wayland, sommet du bordel.
Et Wayland qui pousse plus ou moins Xorg, mais pas vraiment, mais enfin bref, c'est le bazar tout ça. Et donc t'as de plus en plus de softs qui sont complètement conteneurisés, et il faut quand même que tu fasses passer du son de l'un à l'autre et que tu mixes le tout. Ouais. Et Pulse Audio commence un peu à souffler en fait là-dessus. En termes d'usage, et donc Pipewire répond plutôt à cette question, c'est genre Pulse Audio, mais si c'était vraiment dans un contexte de chaque soft est dans son conteneur quoi. Et là, comment tu te débrouilles pour faire passer le son qui sort de ton Slack, de ton Zoom, de ton truc comme ça, sachant qu'ils sont dans des conteneurs différents. Et c'est assez propre parce que Pipewire commence par exemple par ils ont commencé par réimplémenter l'API Pulse Audio, ce qui fait que sur ma machine à moi.
Ah.
En fait, moi j'ai
sur ma machine à moi.
C'est ça, j'ai encore. C'est ça. maintenant ça fonctionne. Et j'ai commencé par exemple par désactiver Pulse Audio. Donc il est toujours installé parce qu'il y a un certain nombre de libs et de trucs comme ça qui ont besoin du .so, des .h qui traînent de Pulse Audio. Mais en fait, le démon Pulse Audio, moi c'est un démon Pipewire Pulse qui est en fait qui émule un serveur Pulse Audio et ça fonctionne sans aucun problème quoi.
Et d'ailleurs, quand tu demandes à Pulse Audio CTL, enfin, ton suivi du Pulse Audio PACTL info, il te dit bien, oui, je suis un serveur Pulse Audio, je suis Pipewire.
Donc voilà, donc il a commencé par faire ça, ce qui fait qu'en termes d'intégration dans le système, c'est vraiment pas dégueu, quoi.
En vrai, ça marche bien, c'est cool.
Mais ça marche bien, genre c'est one click ou il faut bricoler, quoi.
Moi, mon expérience de Linux, c'est d'utiliser Exerbo, donc on va vraiment dire qu'on soit dans le one click.
Ouais.
Par contre, c'est intégré maintenant dans Genome, genre d'un point de vue visuel. Donc, parce qu'en fait, du coup, ils ont récupéré l'intégration de Pulse Audio. Donc, en fait, le Genome, à la façon de causer à Pulse Audio, en fait, il parle à Pipewire.
Personnellement, j'ai juste fait un systemctl disable pulseaudio.service et systemctl enable pipewire-pulse.service.
Ça a marché, boum.
T'as aussi ajouté le session management. Il y a 2-3 services à ajouter quand même.
Enfin, je veux dire, il y a... vous rendez compte de la discussion quand même.
Le setup était déjà pas trop mal. Après, effectivement, quand Quentin a réinstallé son Exarbo de zéro, là, il y a, j'allais dire l'autre jour, mais en fait, ça fait 3 mois que ça traîne, hein, pour être très honnête.
Oui,
ça a été un poil plus compliqué de sortir du son. Au début, il y avait des histoires.
Non, mais
de
c'était
session,
pas. Non, mais c'était non pas. Non, non, c'était pas ça en fait. C'est mon kernel qui faisait chier.
Ah, c'est le kernel.
En fait, j'avais du mal à mettre d'accord mon pilote audio avec le reste du monde et j'avais pas tellement le temps non plus de jouer dans le kernel aussi pour être tout à fait honnête avec ce qui se passait. Donc du coup, ça a pris une éternité. Mais c'est... en fait, j'y ai pas passé une éternité. En vrai, ça a été. C'est un sujet qui a été plié en 20 minutes. C'est juste que les 20 minutes ont été splittées en 40. Donc
sur 8 mois.
Ouais, c'est ça. Du coup,
voilà, c'est ça.
Et du coup, pendant longtemps, on me disait, t'es passé sur ton Linux. Je répondais, bah non, parce que j'ai pas le son. Et là, maintenant, on me dit, alors ça y est, t'es full time sur ton Linux. C'est non, il me manque tel soft qui n'est packagé que dans Snap. Et voilà, on en est là à peu près.
Après, cela dit, je vous remercie quand même de me donner un petit peu de perspective, tu vois, de me permettre de relativiser. Parce que moi, je rage les rares fois, il faut que je, parce que je suis sur Mac, les rares fois, il faut que je redémarre Core Audio D. Donc je me dis, ah putain, il faut encore, tu vois, j'ai perdu le son. Ça arrive pas souvent, mais des fois ça arrive. Ah là, il faut que je kill Core Audio D pour retrouver mon son, ça me fait chier. Bah je me dis, non, ça va, je vais pas me plaindre. c'est...
Je dirais pas que je dois me plaindre. En vrai, c'est devenu assez facile d'utiliser Linux. Nous, il se trouve qu'on a pris une option un peu edgy, voilà, et c'est essentiellement parce que ça m'amuse. En vrai, je veux dire, la première fois que j'ai booté une Fedora sur mon laptop, ça a marché très bien et ça a utilisé.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Après, j'ai trouvé que c'était très intéressant, moi, comme article, cette histoire sur Pipewire, parce que ça définit plein de choses sur comment fonctionne l'audio dans la Linux. Et du coup, j'ai trouvé que c'était hyper cool comme article. Et je trouve qu'il y a plein d'idées qui sont poussées, tu vois, dans... En fait, c'est un truc que moi, j'adore dans GNU Linux au global. C'est cette capacité à pousser des features incroyables en low level dans les librairies de low level, dans les gstreamers, dans les pipewire, dans les systemd ou dans les homed aujourd'hui. Enfin, il y a plein de fonctionnalités incroyables. Après, ça part toujours plus ou moins en cacahuète au moment où il faudrait en faire une UI user-friendly, tu vois.
C'est-à-dire ouais, mais que... ouais.
Mais après,
bien sûr. C'est le problème éternel. Hein. Ça, c'est les interfaces d'ingénieurs. Hein. C'est les 90 autres pourcents du projet, quoi.
Mmh. Ouais, mais tu vois, une fois que tu connais bien Tmux, et que t'as Germinal, et que t'es pour Exarbo, c'est pas si mal, en fait, tu vois.
Ouais, bah, bien sûr.
Mais c'est sympa, tu vois.
Ça va, ouais. Une fois que t'as 40 ans d'expérience, je veux dire, ça va, tu peux...
Non, mais au-delà de la blague, sincèrement, moi, j'ai longtemps quitté Linux et j'y reviens un peu. Je trouve que ça s'est pas mal amélioré au niveau de la UI, notamment Genome, aujourd'hui, dans tous les settings Genome, ils ont fait un gros boulot, tu vois, qui est d'agréger l'ensemble des settings dans une interface de settings, un peu ce qu'a fait macOS. Et
oui,
franchement, c'est bien, c'est facile de coder un setting panel. Du coup, les gens ont tendance à le faire plus facilement.
Oui, du coup, c'est un peu vertueux, quoi.
C'est ça. On n'y est pas totalement. Je vais pas vous dire que c'est l'année du desktop Linux.
si, ça y est. Plus. Ça y est. 2021, l'année du desktop Linux, puisqu'il y a WSLG.
C'est ça.
Donc, ça y est maintenant, tu vois. Alors, c'est pas Linux qu'on imaginait, mais Linux anyhow, quand même.
Ouais, mais bon, tu vois, genre,
oui,
clairement,
bien sûr, bien sûr.
Linux triomphe sur le desktop avec Windows, et clairement, pour les développeurs, le Windows Subsystem Linux, c'est une libération incroyable. Mais en vrai, je trouve que le desktop Linux s'améliore, franchement. Après,
tant
est-ce
mieux.
Que c'est encore un peu pénible, un peu pété, un peu machin? Ouais. Et en même temps, tu vois, j'ai collé des gens sous Fedora qui n'étaient pas des développeurs ni des Linuxiens à la base, et ça se passe quand même pas si mal. Quoi.
Et ça en est où, Wayland versus Xorg? Parce que Wayland... j'ai des gens, Zenny, tu vois, qui sont sur Linux, machin, et bon, c'est un peu la question un peu piège, quoi. Genre, oui, non, mais bon, ça marche, mais bon.
C'en est où chez les moldus ou c'en est où chez les gens qui font du Exarbo tous les jours? Quand tu compiles tout seul, franchement, ça s'améliore beaucoup.
Depuis master, ouais, bien, je vois tout à fait. Ouais.
Ça s'améliore plus vite que dans les distribs. Après, en vrai, c'est en train de se résorber les problématiques de Wayland, de
Jaipa. Est-ce que c'est vraiment un problème? Parce que
oui,
c'est un problème en théorie, mais est-ce que ça fait chier?
Il manquait, tu vois, genre,
d'accord.
Je me share screen, je peux pas, tu vois.
Bah, en fait, oui, quand même, ouais. Ok, ouais.
Voilà, et il se trouve que Pipewire a réglé le problème il y a quelques mois. Mais il se trouve que pendant le confinement, quand t'avais besoin que Marc-Antoine te cherche screen, ça terminait sur il est sur son téléphone portable et filme son écran. Ce qui était assez piteux quand même.
Ok. Après, ouais, tu te dis, bon, ouais, l'informatique, ça devrait être mieux que ça quand même.
Ouais, mais tu vois, c'est toujours des histoires d'intégration d'API à la con. Genre, en fait, il y a une API pour ShareScreen. Le truc, c'est qu'en fait, les softs de téléconférence que tu utilises, en fait, ils sont dans Chrome ou dans un Chromium-like dérivé genre Brave. Et en fait, cette API-là de ShareScreen n'existe pas encore dans l'implémentation Brave. Donc, au moment où tu ShareScreen sur Wayland, ça part en cacahuète. Il essaye de demander à Xorg, d'aller se faire foutre dans le Xorg Wayland et machin. Et en fait, tu vois, on n'est pas loin. Franchement, les nouvelles bases sont saines. J'espère juste que les implémentations vont suivre sur les couches d'au-dessus. C'est un peu, je pense, ce qu'on a éternellement dit dans Linux, où on dit, genre, franchement, la nouvelle base est
cette année, il faudrait, c'est genre... sûr. Ouais.
Non, mais il y a le truc, il y a eu l'étape marrante, là, il y a quelques mois, où quand tu voulais faire du share screen, tu ne pouvais share que les fenêtres Xorg.
Mais dans Wayland.
Enfin, X Wayland, en fait. C'est-à-dire que Wayland te lance un Xorg, un X Wayland, qui est une implém de Xorg dans un coin. Et du coup, ça, dans Wayland, t'avais que genre ton Firefox que tu pouvais, tu sais, ton Slack, ton Firefox. Mais dès que tu voulais share ton terminal qui est du pur Genome, donc du pur Wayland, etc., bah il apparaît même pas dans la liste des trucs que tu peux partager.
Putain, d'accord.
Alors, il y a eu des trucs un peu marrants. Donc maintenant c'est beaucoup mieux.
Mais les couches de compositing Windows, tout comme Pipewire, sont en train de synchroniser. Encore une fois, venez sur Xerbo, compilez vous-même la totalité des trucs, tu récupères les bons patchs et tu l'auras, bien un an avant les distribs grand public.
Est-ce que tu comptes les un an pour être ready, pour être up to speed, que ta machine Xerbo soit up to speed?
Écoute, ma machine Xerbo a finalement été installée assez vite.
Mais attends, c'est ta machine à laquelle tu travailles ou avec laquelle tu fais du Xerbo?
C'est la machine avec laquelle je code.
Quand même, d'accord. Powerful statement, du coup.
Du coup, j'ai décidé de ne pas changer mon Mac. Par contre, là, tu vois, on se parle de mon Mac parce que...
parce que, bon, voilà, c'est l'histoire avec... Voilà, bon.
Non, mais en fait, c'est...
Parce que j'ai pas... Parce que, en fait, il y a un page dans le kernel, en fait, que j'ai... Non, mais c'est compliqué, mais...
Non, mais en fait, ça marche. C'est juste que, genre...
c'est toujours
mon
ça.
Mon Mac a trois mois d'uptime. C'est un bordel d'onglets, de machin, de etc., cataclysmique. Et j'ai pas encore réussi à switch master totalement. Ouais, mais,
ça marche, mais il y a un mec sur une mailing list, un russe, là, il a posté un patch, tu le mets, bon, ça marche que sur Chrome. Sur Firefox, ils font un autre patch, mais vas-y, c'est bon.
Non, mais ça marche.
J'aime bien le. Mais ça marche.
Tout. Non, franchement, c'est pas mal.
Non, bien sûr.
Je suis pas encore au nominal dessus, mais franchement, c'est pas mal. Et tu vois, il y a des trucs incroyables là. Il nous manquait un laptop, il nous manquait pas un laptop. J'avais décidé que le stagiaire qui allait bosser pendant que j'étais en vacances allait bosser sur un truc qui demandait énormément de RAM. Du coup, je me suis dit, je vais lui laisser mon laptop. J'ai snapshoté, tu vois, le BetterFS de la Fedora de mon laptop. Je lui ai juste ajouté une clé de chiffrement, je lui ai filé. Donc en fait, il a pas du tout accès à quoi que ce soit dedans, en fait, parce que même ma Fedora, la Fedora n'a accès à rien. Enfin, ma Fedora, je me suis même pas logué sur le moindre mail dessus. La Fedora chez moi, c'est vraiment la distrib, genre je dois faire une recherche internet, quoi. Et en fait, tu vois, à la fin, j'ai buté juste le snapshot. Enfin, je suis revenu au snapshot d'avant. Enfin, tu vois, genre de culture incroyable
qui
te permet
de
voyager dans le temps ton laptop. Ouais. Tu vois, aucun OS n'est capable de faire ça. Bon, il se trouve que pour le faire, il faut jongler avec peut-être 8 commandes shell un peu pénibles. Je l'accorde, tu vois, mais en vrai, il y a quand même des trucs incroyables dans les bases du système aujourd'hui, que ce soit dans le système de fichiers, dans le système de son, dans le truc, qui est incroyable. Il manquerait juste vraiment beaucoup de manpower de baser à faire de la UI qui déchire. Et je pense qu'en plus, ce seraient des gens qui seraient sur une vision propriétaire et qui vendraient des laptops très bien unifiés, très bien choisis, avec... les bonnes cartes, les bonnes machins, les bonnes améliorations, ce serait nickel, tu vois.
C'est System 76 qui fait ça. Pop OS,
c'est un peu
dans l'esprit, ouais.
Bah, on en a chez nous. Il y a les mecs de Tuxedo qui font du bon boulot. Il y a les mecs de Framework aussi, Frame.work, qui font des laptops qui me font un peu de l'œil. En vrai, il y a plein de gens dans l'écosystème qui font du soft, du demi open hardware, tu sais, genre en utilisant soit core boot, soit hors boot.
Ouais.
Où du coup tu dégages les BIOS des UEFI.
Ah ouais, ils vont jusque là quand même, ok. Ouais.
Ah ouais, System 76, maintenant ils sont en core boot.
D'accord.
Moi j'attends encore la marque qui va faire du pur hors boot. Je sais pas si tu vois ce que c'est, hors boot ou pas.
Non.
C'est les mecs qui ont décidé qu'ils refaisaient core boot en virant le C, en faisant du Rust. Du coup ils l'ont appelé hors boot, ils ont viré le C.
D'accord. D'accord, ok, ouais.
Mais en vrai, c'est hyper cool. Moi, je trouve ce qui se passe dans cet écosystème-là. On n'y est pas totalement pour le user final. Mais je pense qu'en tant que développeur aujourd'hui, tu peux trouver ton compte. Et puis, en fait, tu vois, au pire, quand ça craque, Zoom, ça marche hyper bien sur un iPhone. Hein.
Sur un iPhone, évidemment. Faut pas déconner, quand même.
Ouais. Non, mais ça marche aussi sur Android.
Non, bien sûr, bien sûr. Voilà.
Tu sais quoi, là, je vais faire une transaction brute. À propos de choses amusantes, Freespin, une démo du Commodore 64 sans le Commodore 64.
Ouais, alors je sais pas si vous avez passé ce truc, mais ça m'a scié. Alors pour faire simple, c'est un type qui s'est dit, en gros, il fait une. Donc pour ceux qui connaissent pas les démos, parce que peut-être que l'audience est un peu jeune, mais les démos, c'est faire un programme qui fait des effets visuels ou sonores. Avec différentes contraintes qu'on se met. Donc ça peut être la contrainte, ça peut être en fait le truc le plus beau, ou ça peut être on le fait dans le binaire le plus petit, etc., etc. Il y avait une team très connue, enfin, il y a un site qui s'appelle poète.net, qui est un peu la mec de la démoscine. Il y a toujours d'ailleurs des démos parties à Paris. J'en ai fait une il y a un an ou deux, il y a deux ans du coup. Donc ça existe toujours. C'est un peu moins qu'à l'époque, mais quand même. Lui, donc il y a pas mal de démos. Une des catégories des démos, c'est de faire des démos sur des vieux ordi, des vieilles machines. Et donc l'idée, c'est de faire le truc visuellement le plus impressionnant sur une vieille machine. Et en l'occurrence, alors ce qu'il a fait lui, c'est, je crois que il a plié le game en fait. C'est que il s'est dit, je vais faire tourner ma démo non pas sur le Commodore, en l'occurrence c'est un Commodore 1541, mais sur le disque disquette, sur le lecteur de disquette du Commodore. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce qu'il fait ? Il charge un driver sur le disque, sur le lecteur de disquette. Il enlève la vidéo est incroyable. Hein. Il enlève le Commodore, il le dégage. Il branche le port du lecteur de disquette à l'entrée vidéo de l'écran.
Mon Dieu.
Et pour démarrer la démo, il met le switch de la disquette machin quoi. Et genre c'est le lecteur disquette qui en fait émule un signal vidéo en bit flipping. Et en plus, donc là vous allez me dire il fait de la vidéo. Je veux dire, mais pas seulement, il fait du son. Comment il fait du son ? Parce qu'il n'a qu'un câble, en fait. Il n'a que littéralement le signal et le ground. Donc il fait du composite. Comment il fait le son ? En faisant tourner le moteur du floppy disk. Donc, il a le moteur du floppy disk qui fait le son. Et il a le serial bus qui fait l'image, en fait. Et c'est hallucinant parce qu'il arrive à faire, du coup... Donc déjà, non seulement il arrive à faire à afficher des images... Mais non content d'avoir fait ça, il fait des effets, de zoom, des effets semi-3D et tout. Et c'est incroyable. La démo fait 3 minutes 40, elle a 16 effets. Et donc, en gros, c'est une démo sur Commodore qui marche sans le Commodore, littéralement. Et je trouve ça... Je trouve ça fou, quoi.
C'est complètement fou.
Dans la vidéo, vous verrez le type, il enlève le truc, il coupe les câbles pour les brancher les uns aux autres, et ça marche quoi. Faut quand même imaginer qu'il arrive à émuler un signal composite.
Non mais le son en plus est convaincant quoi.
Ah ben oui, tu croirais un PC speaker de vieille machine avec le floppy drive. Et c'est fou. Moi, j'ai jamais vu un truc comme ça. J'ai vu des démos stylées. Il y a la démo, qui fait 256 bits. Donc,
et 256 le balade avec ses 427 abonnés sur YouTube.
Ouais. dont je pense la plupart viennent depuis qu'il a fait sa démo, quand même. Mais non, c'est fou. Franchement, c'est fou. J'ai vu des trucs stylés, mais ça, c'est très fou. Si ça vous plaît, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui seraient inspirés de faire de la démo. Il y a un groupe qui était très connu à l'époque, qui s'appelle Farbrosch, des Allemands. Et eux, c'était les champions de faire des démos les plus impressionnantes dans genre 64K. C'est eux d'ailleurs qui ont fait un FPS, donc un FPS quoi, un first person shooter en 96K. Et qui est un truc de malade. Hein. Ça s'appelle Kraken, je crois, le pas d'ailleurs. Il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps là, sur YouTube, où ils analysent comment ils ont fait. Mais c'est un truc genre, c'est un shooter, quoi. Et ça fait 96K. Et c'est sorti en 2004, je crois.
Et maintenant, demandons-nous ce que une librairie JavaScript Node.js moyenne fait en 96K.
Mais il y a des trucs, si ça vous plaît la démo scene, il y a des trucs hyper intéressants pour une des disciplines, c'est de faire les démos les plus impressionnantes, par exemple dans 4 kilobytes. Et il y a des trucs, genre les gens ils vont très loin, même en JavaScript, hein, il y a des démos JavaScript, par exemple, où ils font du bitpacking dans les headers ELF ou les headers PE. PE, c'est Windows. Ouais. Et donc, en fait, ils mettent des offsets négatifs, par exemple, de structure. Comme ça, ça prend une autre partie de la structure d'avant. Ouais. Et donc, du coup, tu gagnes. Et ça va très, très, très loin. Et la démo la plus connue, c'est un rétresseur qui fait 256 octets.
Ah ouais?
Ouais. Et genre, c'est en fait une sorte de tube et ça tourne. Et c'est en 256 bytes. Franchement... En moins qu'un tweet, en fait, exactement.
Et ben, en parlant de bytes, hein.
En parlant de bytes, non, ça va, c'est acceptable comme transition. Ça. En parlant de bytes, processeur. Aujourd'hui, je pense que on peut le dire que la scène s'est un peu rouverte sur les architectures processeurs. Et là, c'est une nouvelle démo de chez Xiangxian. Alors, je tente de le dire, je parle pas chinois. Je pense que je viens d'écorcher la tronche des Chinois.
X, ça se dit che. Mm-hmm. Donc tu peux dire Shang-Shang, peut-être, ouais.
Ils viennent d'open sourcer l'architecture d'un RISC-V 64 bits.
Mm-hmm. Je crois.
En fait, ils te proposent une capacité. Il le compare à un Cortex A7.
Okay. A75.
Ouais. A75. Et je trouvais ça hyper intéressant. Parce que le machin a quand même pas mal de perf. Pour un truc qui est gravé gros, quoi. C'est du 28 nanomètres. Et ça tourne à 1.2, 1.3. Je trouvais ça assez intéressant, en fait.
Pour ceux qui ne connaissent pas, RISC-V, c'est ce qu'on appelle une ISA. Donc une architecture... processeur, quoi, pour faire simple, qui est open source et libre de droit. Contrairement à Intel, x86, c'est dominé par Intel. Enfin, c'est peut-être pas dominé, ça appartient à Intel. ARM, la boîte ARM, vend les licences aux constructeurs, à Apple, à Nvidia, ce que vous voulez. MediaTek,
Nvidia, vu que ARM ils sont bientôt Nvidia.
Ouais, mais je crois que je suis pas sûr que l'Europe laisse passer, mais bon, on verra. Ça c'est la géopolitique, parce que ARM est anglais, hein, pour ceux qui ne savent pas. Mais l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe. Des Angleterres, pardon, ne fait plus partie de l'Europe. Donc,
ouais, et c'est possédé assez largement par des Japonais aussi. Enfin, l'architecture d'ARM, c'est compliqué, quoi.
Et du coup, à RISC-V, c'est du coup fait par un consortium. C'est parti de Berkeley, je crois, de mémoire, mais je peux me tromper. Mais c'est open source en fait, donc c'est complètement open. L'avantage, c'est que là, tu vois, toi qui parlais de souveraineté tout à l'heure, là, il y a un sujet majeur en fait de n'importe qui en fait d'être souverain sur ces architectures. Sur cette architecture-là en fait, puisque on ne doit rien à personne en fait.
La licence clairement MIT, c'est-à-dire que tu peux prendre une base de RISC-V, en faire ce que tu veux, foutre ton truc dedans et c'est parti, quoi. Et en fait, t'as vraiment rien à demander à personne. Et en plus, c'est une architecture qui est hyper intéressante dans certaines approches.
Ouais, et puis il y a, enfin, tu vois, il y a même pour ceux qui savent pas, il y a une boîte parce qu'évidemment, une archi c'est bien beau, mais il faut qu'il y ait une boîte un peu, enfin, c'est bien d'avoir des structures qui supportent. La boîte la plus connue, en tout cas. Jusqu'à cette annonce-là, je vais dire, c'est Sci-Five qui fait des boards. Ça coûte encore une blinde, hein, et les perfs, c'est pas ouf. Hein, c'est pas ouf. Cela dit, jusqu'à peut-être ce machin. Mais par exemple, n'importe qui, même de l'audience, si vous voulez, vous pouvez implémenter une RISC-V et peut-être faire un processeur plus rapide. Ça, c'est vu. Hein, y a des talks sur YouTube de gens qui ont implémenté des versions haute performance ou de certaines parties et tout. Donc c'est vraiment très chouette. Et pour moi, je pense que c'est clairement le futur. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment de la... Enfin, du coup, tu fais fi de toute la dette, que ce soit d'ARM ou d'Intel. Mmh. Donc, il y a clairement un truc à aller chercher, quoi. Et donc, à chaque fois que je parle de ça, je rage. En tout cas, à ma connaissance, ST Microelectronics ne fasse pas de RISC-V. Peut-être que si, mais peut-être que non. Mais je crois pas.
Non, mais c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement triste qu'on n'en fasse pas plus. Et moi, je trouve que ce que ça prouve, qui est incroyable, c'est que la Chine qui dit sur les semi-conducteurs, on va s'énerver, ben, ils sont en train de s'énerver. Et en fait, ils ont mis beaucoup d'argent là-dessus en disant on a un souci de souveraineté et il faut qu'on y aille. Et là, je pense qu'ils vont sortir des choses. Et...
Alors... Ouais, ce qui est intéressant, ça utilise quand même, et ça c'est un sujet, je pense, pour eux, c'est que ça utilise quand même TSMC. Hein. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, TSMC, c'est taïwanais.
Pour l'instant, ça utilise TSMC.
Pour l'instant, ouais. Mais il y a des, enfin, j'ai vu pas mal d'articles sur le sujet où, genre, la Chine recrute en masse des anciens ingénieurs de TSMC, leur donne des packages de fous et tout. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, TSMC, c'est un peu, dans notre domaine, hein, le centre du monde. Hein. Et TSMC, c'est taïwanais, c'est fondeur, et taïwanais... Hein, hein.
Ouais, c'est un fondeur.
Ouais, ouais, et c'est taïwanais, et bah, la Chine considère que le Taïwan fait partie de la Chine. Et Taïwan considère que la Chine fait partie de Taïwan.
J'avais balancé un article il y a quelques massifs, je ne sais plus dans lequel, là. Il y avait j'avais balancé un article sur un papier de l'histoire de Samsung Electronics versus TSMC, ouais, vu par des Chinois. C'était assez pertinent.
Ouais, je veux bien que tu me l'envoies. Ouais.
J'ai essayé de te retrouver cet article. Il était complètement fou, cet article, en fait.
Je suis très curieux. Là, ce qui est marrant, c'est que quand on parle de TSMC, on est en plein dans la géopolitique. Hein.
Ah oui, puis alors là, c'est extrêmement brûlant, quoi.
Ah ouais. Bah, tu te rends compte les enjeux, si jamais, tu vois.
Eh bien, vous vous rendez compte.
Surtout que TSMC... Là, ouais.
Cet article-là, j'ai osé le balancer pendant l'épisode 36, dans lequel le guest, c'était Stan Odino de chez Intel.
Ah bah voilà, bah, je vais aller voir.
Et voilà, je vais le mettre dans le backlog. Je vais le mettre dans le backlog.
Parce que pour info, quand même, TSMC, il faut savoir qu'ils ont, en tout cas, de ce qu'on sait... l'hégémonie sur la techno. Hein. Genre, c'est eux, enfin, les process 2 nanomètres, 3 nanomètres, pardon.
Ouais, pour l'instant, il n'y a que eux.
Il n'y a que eux, ouais. Là où tout le monde galère à faire du 7. Donc, ouais.
Intel a annoncé sa roadmap pour 1 nanomètre.
On verra quand ce sera exécuté. Je leur souhaite, hein, franchement, je nous le souhaite à tous, hein, parce que c'est ce qui fait qu'on a maintenant après 10 ans de core, de Intel Core qui se mettait à jour au lance-pierre, là maintenant on a des trucs quand même. La compétition fait du bien. Mais ouais, du coup, RISC-V, juste.
Ouais, vas-y.
Sur RISC-V, un truc aussi qui a été très chouette, le fait que ce soit une archi open, ça a vachement mis la pression à d'autres archis, et ça a donné des idées à IBM, qui a décidé de open son archi à eux, c'est-à-dire PowerPC.
Ah ouais,
et du coup PowerPC est devenu open. Alors ils le disent pas, mais je pense dans le sillage de RISC-V, quoi. Et donc c'est très chouette, parce que PowerPC, c'est une archi qui est très chouette. D'ailleurs, sur ceux qui peuvent voir, j'ai deux Mac PowerPC derrière moi. Donc, et un chat qui se balade, ah oui.
Puisqu'on parle de processeurs, l'un des trucs les plus amusants à faire, c'est quand même d'émuler les fameux processeurs. Et d'habitude, l'émulateur de processeur, c'est une espèce de soft d'électronique un peu baisé dans lequel vous mettez vos portes logiques, machin, c'est lent. Et quelqu'un s'est dit, il est important de moderniser l'émulation de processeur. Et là, moi, je te laisse expliquer ce qu'on a découvert. Un truc.
Ouais, c'est le microprocesseur 8080, si je dis pas de bêtises. Quelqu'un
c'est ça, s'est dit, ouais.
Tiens, si je le modélisais avec des microservices lancés sur Kubernetes, je pense qu'on atteint un certain niveau, quand même, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Mais voilà, donc c'est juste quelqu'un qui s'est dit je vais créer tous mes microservices, etc., et puis les lancer, ils s'envoient des messages, etc., et je vais émuler un processeur 8080 là-dedans.
Il a fait ça vachement bien parce qu'il a fait genre le opcode service où t'envoies des opcodes et ça te retourne le résultat et tout.
Ah non, c'est incroyable.
Et ça marche, hein, ça marche. Mm-hmm.
Ça doit être lent as fuck, mais...
Oui, oui, mais c'est... Enfin, c'est marrant de pousser la connerie jusque, tu vois, jusque-là, quoi.
C'est ça.
Donc, je vous recommande cette lecture drôlifique. Mmh. Et là-dessus, ce que je vous propose, c'est que tu nous expliques ton choix musical.
Alors, eh ben, écoutez, c'est une musique que m'a envoyé Corentin il y a quelques jours, que j'ai bien kiffé. Mmh. Et pour ceux qui connaissent, enfin qui aiment ou qui connaissent, c'est de la Retro Wave. La Retro Wave, pour faire simple, c'est de la musique des années 80, synthé, tu sais, néon, violet et tout, mais fait en 2020, quoi, ou en 2021, donc fait récemment, et c'est un genre que j'adore, en particulier un groupe qui s'appelle Gunship, dans lequel je suis très fan, mais il y en a plein d'autres. Et là, du coup, Corentin m'a envoyé ça il y a 3 jours, et j'ai surkiffé, et voilà, je voulais vous en faire profiter.
Bah écoute, merci. Écoute, en rétro wave cette année, j'ai trouvé une énorme blague qui m'a fait exploser de rire. C'est un groupe qui s'appelle Make America Dance Again.
Ouais.
Ils ont fait un morceau qui s'appelle juste Trump.
D'accord.
Et c'est complètement de la rétro wave. Et moi, d'accord, il m'a fait tellement exploser.
Comment ça s'appelle déjà?
Make America Dance Again.
D'accord, je regarde.
Trump. Make America Don't Say.
Ça marche.
Steve, merci. Là, du coup, t'entends par le casque, t'entends la musique qu'on envoie ou pas?
Ouais, un peu loin, mais ouais.
Ok. On verra si on se fait strike ou pas. Du coup, Steve, où est-ce qu'on te retrouve?
Tous les midis sur le Hacker News Café. Enfin, pas toujours tous les midis, mais disons qu'il y a le Hacker News Café tous les midis.
Sur Twitter?
Sur Twitter aussi, du coup, twitter.com/Steve, avec deux E. STEVE, et puis vous me retrouvez, et puis toujours pas le dernier à dire des conneries. Et à bistrotter le midi. Et venez le midi, je vous invite tous sur Clubhouse ou sur Spaces, mais en ce moment ça va être Clubhouse. Et c'est 30 minutes tous les jours. Zéro friction, on le fait en mode YOLO, et l'idée c'est vraiment de pas se prendre au sérieux et de faire du bistro. Mais des fois on a quand même des discussions incroyables avec des gens qui sont curieux ou qui sont d'un truc, qui connaissent très bien un domaine, et on découvre des trucs incroyables. Donc,
et des fois on se fait pourrir par un recruteur troll.
Ah oui, ah oui. Oui, alors il y en a plus trop là, pour ceux qui savent pas, il y a eu une vague sur Clubhouse de gens qui joinaient qui rejoignaient des rooms Clubhouse pour poser la question « Bonjour, je cherche des développeurs. qu'est-ce que tu fais ?» Ou alors des hijacks complets de gens qui posaient des questions et qui hijackaient complètement la room, et on n'osait pas leur dire que c'était pas le sujet, quoi. Donc, ça, j'en vois plus trop. On en a plus trop. Voire plus, en fait.
Là-dessus, écoute, merci beaucoup d'être venu. Je pense qu'on va
bien se faire
écouter par les auditeurs d'avoir fait un 2h17.
C'est ce que j'ai cru comprendre.
Mais écoute,
c'est Julien, ouais.
C'est moi qui me suis un peu énervé au début. J'ai dit non, on n'a pas assez de contenu, on va aller chercher un peu dans les news froides qu'on avait qui traînaient. Donc voilà.
voilà, bravo. 12h18. 2h18, bravo.
Et donc, merci encore d'être venu. Merci à toi, Julien. Et puis, très bientôt à tous. La bise.
Salut.
Merci, salut.